radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniela Mich, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct mercredi 1er janvier 2003, de 18h à 21h, en différé jeudi 2, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, bonsoir, chers amis auditeurs, et évidemment, bienvenue dans ce libre journal de Serge Bekech, le premier libre journal de Serge Bekech de l'année 2003, ce qui nous donne l'occasion, ma chère Jacqueline, de souhaiter quoi ?
Eh bien, une bonne année.
Ah ben, je dirais plutôt une sainte année.
Une sainte année, pardon.
Une sainte année, quand même, on est branché des païens ici, donc on se souhaite une sainte année. Que sera cette année ? Personne ne peut le dire. Non, mais Jean-Baptiste, mais ne me regardez pas comme si un oracle allait tomber du traité de la pitié.
D'un coup, la gravité s'abat.
Oui, la gravité, parce que c'est vrai, les vœux, moi je souhaite évidemment de tout cœur, d'abord je souhaite le meilleur pour chacun, parce que c'est ce que veut bon Dieu pour nous, après tout. Encore faut-il que on coopère un petit peu à la volonté de Dieu, alors si on coopère un peu à sa volonté, les choses iraient quand même beaucoup mieux. Parce que si on en juge... Oui, ma petite Jacquelinette.
Une année de paix.
Une année de paix, oui, une année de paix. Paix dans les cœurs, paix dans le monde, oui, c'est... Bon, on peut le souhaiter, mais enfin, je ne peux pas, je ne donne aucune garantie, puisque nous ne savons pas ce dont l'année va être faite. Il y aura sans doute des choses magnifiques, de grands malheurs, enfin, tout ce qui s'annonce est plutôt négatif, plutôt pas très agréable, les bruits de guerre, les bruits de clonage humain, enfin, toutes sortes de choses abominables qui sont en train de se dérouler. Tout ça ne nous incite pas à croire que l'année va être excellente, mais il est nécessaire quand même de nous la souhaiter bonne et sainte surtout.
Oui, parce que on peut aussi se dire.
Alors Jean-Baptiste année, Chaumet, oui, qui vous êtes invité, vous pouvez prendre la parole tout de suite, et puis je vous présenterai après. Hein, ce sera plus pratique.
Voilà, ça. C'est plus simple. Non, mais je pense qu'elle saura aussi ce que nous en ferons. C'est un petit peu, si vous voulez, se dire oui, évidemment, toutes les foudres d'Israël nous tombent sur le crâne, mais en réalité, on peut aussi faire des bonnes choses.
Tout à fait. C'est ce que j'avais insinué que la grâce est dans.
Ou les cœurs.
Il faut coopérer. Coopérer. Voilà. Alors je dois vous transmettre les meilleurs vœux de notre bonne camarade Victoria qui n'a pas pu venir parce qu'elle a encore une fin sciatique. Oh, c'est affreux, hein.
Je lui souhaite un très bon rétablissement.
Vous l'entendrez certainement la semaine prochaine. Alors les vœux étant faits, ce qui est quand même de saison, peut-être maintenant pourrions-nous dire ce que nous avons ce soir au programme, au menu. Ou à la carte. Nous avons un très bon programme ce soir. Enfin, non seulement nous avons la chance d'avoir parmi nous notre bon camarade Jean-Baptiste Chaumeil, qui est, par le fait qu'il soit... Ah ben non, on peut pas dire que votre métier, parce que c'est de la publicité, non ?
Voilà, c'est ça, on n'a pas le droit de dire ce que je fais.
Voilà.
Alors, je ne suis pas inspecteur des impôts, gardien de prison.
Non, mais je... Bon, enfin, alors, on n'a pas le droit de dire.
Je suis chirurgien-dentiste.
Ah ben voilà, vous êtes chirurgien-dentiste.
Mais je ne...
Ah ben, on va pas dire que vous êtes le meilleur chirurgien-dentiste.
Non,
vous êtes chirurgien-dentiste.
Voilà,
vous occupez de la santé.
C'est pas un métier honteux.
Voilà, c'est pas un métier honteux, non. J'en connais des... J'en connais quelques-uns, je pourrais faire la liste, qui sont un peu plus... Bon, enfin, passons. Alors, qui non seulement est un chirurgien-dentiste, et je ne qualifie pas, pour qu'on n'aille pas croire que je fais de la publicité pour son cabinet, mais qui est aussi un des membres éminents, fondateurs, un pilier du cœur Montjoie-Saint-Denis, de nos bons camarades, et puis qui est également un auteur, et qui a une passion, tout ce qu'il y a de moins coupable... pour le grand Jacques Perret, dont vous allez nous parler, puisque vous avez réédité votre plaquette, enfin votre plaquette, une brochure plutôt, ça fait 46 pages, c'est ça, je ne me trompe pas, 46 pages. Petit hommage pour un grand monsieur, Jacques Perret, avec, je crois, 70 ou 80 illustrations dedans, si mon compte est bon. Je crois que j'ai compté hier, donc en principe ça doit être ça. Tout à fait remarquable. Donc on va en parler. Et puis également, nous font l'amitié d'être là ce soir en première partie, Grégory et Isabelle Solari. Alors c'est un couple d'éditeurs. Enfin, bon, c'est vous plutôt, Grégory, qui est éditeur.
Ah, ne nous séparez pas ce que le Seigneur a uni.
Non, ça, vous êtes unis de façon tout à fait convenable.
Ma femme fait partie intégrante.
Alors Isabelle aussi, vous participez à
les sœurs.
Ah oui.
Oh, oui, je suis co-directrice littéraire et administrative, etc., des éditions.
C'est-à-dire, il vous fait faire tout ça, le boulot, enfin.
Il en fait aussi beaucoup.
Alors, cette maison d'édition dont nous allons parler tout de suite s'appelle Ad Solem, les bien connus de nos auditeurs, puisque, tout simplement, comme les livres que vous publiez sont des livres de qualité, il est normal qu'une radio comme Radio Courtoisie reçoive vos auteurs et vous reçoive aussi vous. Je vous reçois ce soir un triple titre, je dois dire. D'abord, une très ancienne amitié qui me lie à votre épouse Isabelle, à une époque où elle collaborait à une revue dont le directeur vient souvent dans cette émission, puisque vous étiez l'assistante de Christophe Geoffroy
oui,
au mensuel La Nef. Deuxièmement, parce que vous êtes une maison d'édition très sympathique qui fait un très beau travail, et également parce que le livre dont nous allons parler ce soir est un livre auquel vous avez vous-même collaboré par la plume.
Oui, il fallait un troisième collaborateur à un essai qui était trop court, donc il a fallu que je sorte la plume.
Que vous sortiez la plume et que vous-même vous mettiez de... Bah, écoutez, ouais. Je veux dire, ce que vous avez fait, c'est pas si mal que ça.
Ouais, écoutez, oui, c'est pas si mal, et d'ailleurs, vous étiez au vœu de bonne et sainte année. Je vais juste vous lire en guise d'ouverture, et après, un passage du Seigneur des Anneaux.
On va en parler. Bah oui, mais attendez, vous allez pouvoir le lire, mais j'ai pas terminé ma présentation.
Je vous laisse.
Alors, nous venons parler ce soir, notre ami Grégory et son épouse Isabelle viennent nous parler d'un ouvrage qui vient de paraître, un très beau petit ouvrage, qui s'appelle Tolkien Faerie, alors c'est pas Faerie, hein, c'est Faerie avec F-A, umlaut, l'allemande, ou Dréma à la française, et christianisme. Ça vient de paraître, hein, c'est paru il y a quelques semaines, parce que c'était à Toussaint que c'est paru, c'est ça?
Non, c'est paru
au tout
début du mois de décembre. Le livre est imprimé à la Toussaint.
C'est marqué ici.
Oui, hein. Donc il y a toujours un décalage entre l'impression et la livraison librairie.
Alors c'est un livre tout à fait extraordinaire. La raison pour laquelle c'est extraordinaire, c'est parce que Tolkien est un auteur passionnant. On va toujours sur les couvertures J.R. Tolkien. J.R. c'est John Ronald Tolkien.
Royal. John Ronald Royal
Tolkien. Voilà, il y a un troisième titre aussi, J.R.
Bon.
Alors, ce J.R. n'a strictement rien à voir avec un fantôme célèbre de la télévision d'autrefois. Il se trouve effectivement qu'il y a une actualité, puisque le deuxième film tiré du Seigneur des Anneaux est actuellement sur tous les écrans, et sur un grand nombre d'écrans en France en tout cas, que c'est le film qui attire le plus grand nombre de spectateurs. Bon, entre le film et l'œuvre de Tolkien, il y a peut-être une différence. C'est un film tout à fait charmant et très intéressant à voir, très beau à regarder, et au moins qui tire les gens plutôt vers le haut, ce qui est quand même une jolie chose. Mais évidemment, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est quelque chose de très très différent, puisque c'est le livre qui est le plus vendu au monde après la Bible. Hein, je pense qu'on a vendu 50 millions d'exemplaires. Puis au moins, l'avantage du film, comme vous le dites très bien dans votre préface, c'est que ça va attirer des gens à la lecture de Tolkien. Alors, les avis sont très partagés sur Tolkien. Vous allez pouvoir lire votre petite chose là. Les avis sont très partagés sur Tolkien. Et j'avoue que en lisant votre petite préface, je me suis vu moi-même, à une époque où vous n'étiez peut-être encore même pas un projet dans la tête de vos parents, vraiment calant sur les 40 premières pages.
Oui.
Bon, après je suis allé plus loin. Par contre, sur La Recherche du Temps Perdu de Proust, je n'ai jamais dépassé les 40 premières pages. Bon, ce qui montre quand même que je suis quelqu'un de très inculte et de... Bon, je peux pas, enfin, on peut pas obliger les gens à lire.
Certes.
Pas encore. Bon. Et on va parler de l'univers de Tolkien, et chez certains catholiques, ou dans un certain milieu catholique, on peut dire, même des milieux tout à fait honorables par ailleurs. C'est pas parce qu'on aime Tolkien qu'on est un homme bien, c'est pas parce qu'on n'aime pas la lecture de Tolkien qu'on est un homme moche.
Oui, c'est sûr. Hein,
bon. Mais dans certains milieux catholiques, c'est ça qui nous intéresse dans cette émission, on a pris Tolkien avec un son de pincettes, notamment, enfin oui, et moi j'avais exactement les mêmes réactions, en disant, enfin bon, Dieu est absent, on va pas, etc. Mais le christianisme de Tolkien, c'est tout à fait différent. Alors on va en parler. Alors, vous vouliez nous faire une petite lecture de premier de l'an.
Meilleurs vœux.
Oui, les meilleurs vœux. D'une certaine manière, ce seraient les meilleurs vœux de Tolkien. C'est dans un passage du livre. Vous évoquiez l'ombre qui plane sur 2003. Je vous lis juste. Sam vit pointant au milieu des nuages légers qui dominaient un sombre pic haut dans les montagnes, une étoile blanche et scintillante. Sa beauté lui poignit le cœur, tandis qu'il la contemplait de ce pays abandonné, et l'espoir lui revint. Car tel un trait net et froid, la pensée le transperça qu'en fin de compte, l'ombre n'était qu'une petite chose transitoire. Il y avait à jamais, hors de son atteinte, de la lumière et une grande beauté.
Ben, c'est magnifique.
C'est très beau.
Alors, c'est tout l'esprit de Tolkien.
Voilà, c'est tout l'esprit de Tolkien. Alors, racontez-nous un petit peu. D'abord, avant de parler de Tolkien, moi, je veux parler un peu des éditions Axelem, parce que c'est une maison d'édition très sympathique, qui existe depuis une petite dizaine d'années. Ma science est toute récente, puisque je vous ai posé trois questions avant qu'on commence l'émission. Mais je connais vos livres, hein. Attention.
Ah,
bon, ça commence pour pas dire de bêtises. Bon. Et vous avez déjà publié pas loin de 80 titres. Mm-hmm. Bon, mm-hmm. Vous serez à la fin de cette année 2003, si Dieu le veut, vous serez à 100 titres. Et puis après, mon Dieu, tout vous est permis. Alors, c'est une maison que, pour, qu'est-ce qui vous a, Grégory, Solari, qu'est-ce qui vous a poussé à être éditeur, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un métier de, surtout pour éditer le type d'ouvrage que vous publiez, c'est quand même un métier de chien quand même, faut dire les choses comme
ça. Oui, c'est un métier de chien, vraiment, c'est vraiment un métier de chien, mais d'une certaine manière on voudrait pas faire autre chose. Donc,
mais de chien de bonne race.
Oui, de bonne race, on espère. Mais pourquoi? Bonne question, c'est une question qu'on pose souvent aux éditeurs. Les éditeurs en principe bougent un peu la tête, se posent la question et en fait réalisent que c'est comme un homme traversant le désert qui arrive à une oasis, il commence à boire et il réalise à ce moment-là qu'il avait soif. J'ai réalisé en commençant à travailler dans l'édition que d'une certaine manière j'avais toujours été fait pour ça. J'ai toujours aimé les livres, dans ma famille on a toujours aimé les livres. On est une famille à la fois d'artistes et de littéraires et cette veine m'est tombée dessus, un peu comme Obélisque tombant dans la
potion magique.
Et voilà, c'est comment justifier une évidence, vous voyez ce que je veux dire, c'était ça, et c'est ça. Maintenant c'est un métier de chien parce que les circonstances et la phase de civilisation qu'on traverse ne va pas du côté de la lecture, et ne va pas du côté du livre, et ne va pas du côté de la foi, et ne va pas du côté de la lecture, de la culture, donc il fallait prendre le contre-pied et se dire que au moins prouver qu'on était vivant en remontant le courant et pas se laisser porter.
Alors ça c'est beau comme il remontait le courant, ça c'est une très belle expression. Et je ferai un tout petit commentaire si les auditeurs m'y autorisent, parce qu'il paraît que je coupe tout le temps la parole à mes invités, mais à la radio si on ne parle pas, voilà ce qui se passe. C'est extrêmement désagréable quand même. Alors il faut parler en continu, sans quoi c'est plus de la radio qu'on fait bien. Que c'est le langage des signes, mais ça passe moins bien quand même. Bon, même si le poste est très 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 bien, très fidèle et très bien centré sur notre fréquence, sur Radio Courtoisie. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui, enfin vous le dites, une certaine désaffection pour la lecture. Mais quelqu'un faisait la réflexion, je me demande, c'est pas encore une fois dans une émission de Radio Courtoisie, on entend toujours plein de trucs passionnants. Quel grand intellectuel français disait, mais après tout, il n'y a pas plus de lecteurs, ce qu'on appelle des vrais lecteurs, des gens qui lisent au moins un livre toutes les semaines ou tous les 10 jours. Bon, c'est ce qui est à peu près notre cas, hein, on est obligé de lire. Obligé, non, c'est parce que c'est une obligation bien agréable, enfin, on lit au moins un bouquin tous les 10 jours. Il n'y a pas plus de lecteurs de cette nature qu'il y en avait au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors, cette réflexion m'avait à la fois interloqué, un peu paniqué, parce que je suis aussi éditeur, comme vous le savez, c'est toujours un peu paniquant d'entendre qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, parce que c'est quand même, on vit quand même bon. Et après, on se dit que de toute façon, il est vrai aussi que nous vivons des livres que nous vendons, mais pas des livres qui sont lus. Donc beaucoup de gens achètent des livres qu'ils ne lisent pas. Non, c'est vrai. Oui. C'est des trucs vraiment bêtes. Les gens achètent des livres parce que il y a une impulsion d'achat. Un livre qui est très intéressant, on entend parler, on l'achète. Bon, on le feuillette un peu, puis on le met, puis on va pas le lire. On va le lire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc il y a aussi cet aspect qui sauve un peu notre petit commerce de libraire, comme on disait autrefois. Mm-hmm. Nous sommes oui. De librairie, oui. Comme on disait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Mais c'est un petit peu vrai que au niveau du nombre de lecteurs, lecteurs, ça n'a pas tellement évolué. Alors bien sûr, des livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est un livre qu'on achète une fois par an. Comme on achetait autrefois dans toutes les familles humbles de France jusqu'à quasiment aux années 60 du siècle passé, l'Almanach Vermeau, qui est à peu près le seul livre avec, qui rentrait dans les foyers avec le petit Larousse, qui était acheté une fois tous les 40 ou tous les 50 ans. Je comprends pas comment Larousse a fait fortune d'ailleurs, parce que par définition, un dictionnaire c'est fait pour durer. Non, c'est vrai. Alors que l'Almanach Vermeau, ça c'était plus rigolo. Parce que là, ça quand même, ça a changé, il y avait des blagues nouvelles tous les ans. Enfin bon, je plaisante. Ceci dit, alors, vous êtes, votre travail d'éditeur, alors vous le faites de façon très très remarquable, parce que les couvertures sont toujours très élégantes, la typographie est toujours claire, les papiers sont chouettes. Bon, enfin, c'est très intéressant. C'est un livre qui est c'est des livres agréables à toucher, ce qui est bien. Mais vous êtes quand même spécialisé, vous avez pris une spécialisation, entre guillemets, si je peux parler de spécialisation.
Oui, non, c'est une spécialisation. C'est un créneau, le créneau foi et culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça procède d'une conviction, c'est que la foi, nous semble-t-il, ne peut pas être reçue s'il n'y a pas une culture sous-jacente, générale ou individuelle qui puisse la recevoir. Et à l'inverse, et c'est en ça où la foi et culture sont à notre avis indissociablement liés, la foi engendre en même temps la culture. Donc il y a un jeu entre ces deux pôles, foi et culture. Donc le montrer par le simple fait d'être éditeur, puisque le fait de publier des livres, c'est évidemment une activité, je dirais, avant tout culturelle, puis commerciale, mais avant tout culturelle. Le montrer donc par l'objet livre, le montrer également par des auteurs qui ont réfléchi à ces interactions, plutôt du côté de la foi ou plutôt du côté de la culture, et ou alors publier les textes de grands auteurs, des pères de l'Église, des auteurs classiques, ou montrer qu'un homme ignoré, comme par exemple Tolkien, s'inscrivait dans cette perspective.
C'est proprement incroyable, et là j'avoue que ce petit livre est une révélation, et moi-même, je dirais, avant de le lire... Je partageais beaucoup des préjugés d'un certain nombre de catholiques ou de gens disant bon, il n'y a pas vraiment dans Tolkien de choses. Et puis en fait, je me suis rendu compte, la lecture de ce volume, qui s'appelle Faëri et Christianisme, je rappelle que c'est édité aux éditions Absolem, que c'est en vente dans toutes les librairies, parce que vous êtes diffusé par
Sophie,
etc. Alors oui, il faut quand même que je dise que dedans il y a quand même des contributions de vous.
Oui, nous sommes trois.
Vous,
hein,
vous êtes trois quand même. Il y a une contribution remarquable. Je dis pas ça pour minorer le travail que vous avez fait, cher camarade.
Non, mais
remarquable de Didier Henry.
Oui, tout à fait.
Très remarquable.
Que connaissent bien nos auditeurs aussi, qui est diacre permanent et qui est directeur général de l'Alliance de l'aide à l'Église en détresse
pour la France,
une association magnifique. Et puis alors une autre contribution d'un monsieur Stratford.
Caldecott.
Alors, qui je sais pas qui c'est, monsieur Caldecott.
Professeur à Oxford, qui dirige un centre foi et culture, qui est un ami, qui est un Tolkienien de longue date, et qui prépare un livre pour 2003 en anglais sur l'œuvre de Tolkien, et justement l'enracinement catholique de l'œuvre de Tolkien. Et le texte que nous publions, lui, est extrait. C'est un chapitre.
C'est un chapitre qui vient de ce livre, livre apparaître. Bah, j'espère que vous pourrez en traduire, en éditer la traduction.
C'est prévu.
Monsieur Chaumeil, vous voulez dire quelque
chose? Oui, je voulais juste demander, vous en êtes donc à combien de volumes actuellement? Enfin, quel est le...
À peu près 80.
Et pouvez-vous donner quelques titres, enfin, qui donnent un petit peu la...
Bah, on a publié par exemple le livre sur la liturgie du cardinal Ratzinger, des textes inédits de saint Augustin, des traductions inédites de saint Grégoire de Nazianze, les œuvres du cardinal Newman...
Des
œuvres complètes d'Edith Stein, c'est nous qui les publions, et bien d'autres encore, et des auteurs connus, moins connus, des Français, nous sommes beaucoup plus en Suisse en fait. Nous sommes une édition basée à Genève, et l'esprit de Genève participe de l'esprit des éditions, en ce sens que c'est une ville, je dirais presque accidentellement, en Suisse, c'est une ville cosmopolite, Genève. Bon, vous n'y respirez pas l'air de la bonne Helvétie, vous respirez autre chose, c'est une croisée de culture, une croisée de civilisation. Et il n'est pas anecdotique qu'Absalom soit basé à Genève. Et voilà.
Et puis c'est plus pratique pour vous qui êtes suisse. Vous êtes de nationalité suisse.
Oui, je suis de nationalité suisse, oui.
Je suis de Suisse, d'accord. Isabelle Roux, non. Isabelle, non, pardon, j'ai donné votre nom
de
jeune fille.
Oui, Roux, de jeune fille,
paf, et ben voilà, ça
c'est
y est,
bien.
Je voulais pas le faire, je l'ai fait. Paf. Allez, elle est purement française, hein, comme quoi, vous voyez. Alors je salue l'arrivée dans le studio de mon bon camarade Étienne Grandterre.
Bonsoir, chers auditeurs, et meilleurs vœux.
Eh ben voilà, c'est bien, c'est très bien. Meilleurs vœux, bonne et sainte année à vous aussi, mon bon camarade, qui est un journaliste et qui participe à la rédaction de mon hebdomadaire qui s'appelle Légitimiste. Qui,
paraît-il.
Voilà, ça vous arrive quand même une fois par semaine, à peu près, de faire un article. Donc c'est quand même très bien pour un hebdomadaire, c'est bien. Vous voyez, vous avez.
Bah, c'est-à-dire qu'on est excellent. Enfin, je tiens à le dire aux auditeurs, on a des rétributions qui sont
faramineuses.
Oui, je pense que c'est un des. Oui, c'est.
Toutes les fins de mois, je leur signe des bons. Trésor royal,
oui.
à négocier au jour de la restauration.
Exactement, exactement.
Et je fais de très bonnes affaires.
Oui, et ce n'est pas rien.
L'affaire des emprunts russes ne vous a pas servi.
Non, mais
non, pas du tout. Non. C'est dans la joie qu'on perd de l'argent. Hein. Attention.
Agréable de perdre de l'argent pour ses amis.
Je vous signale que, messieurs, que c'est ce qui se passait dans notre cher Vendée.
Bien
dans
entendu.
Tout l'Ouest, hein, on tirait des billets, effectivement, les généraux vendéens tiraient des billets sur le trésor royal à venir. Et il y a eu une restauration. Je ne sais pas si les billets ont été honorés.
Cher Daniel, je voulais demander à Grégory Solerny s'il ne craignait pas, compte tenu de la ligne éditoriale qu'il suivait, qu'il lui arriva un jour le sort de M. Servet, par exemple.
Qui se servait à Servet,
oui,
Servet,
Michel... Servet.
Attendez, alors
oui.
Dites-nous ce que c'est que M. Servet.
Michel Servet,
c'est
un homme qui a contesté la ligne calviniste et qui a été victime de l'inquisition de M. Calvin.
Oui, mais qui était lui-même protestant, Michel.
Ah, bien entendu, voilà. Ça se passait entre eux. Hein.
Absolument.
Nous n'y sommes pour rien.
Oui, vous avez raison de le souligner. Genève n'est plus une ville calviniste. Les catholiques sont en grande majorité quantitative. Maintenant,
oui.
De quel catholicisme s'agit-il ? C'est une autre question.
N'y répondons pas.
Voilà. Ce qui reste, si vous voulez, quand les calvinistes n'ont plus la foi à Genève, il reste alors...
Les banques.
Plus que... Il ne reste... Oui.
Et le chocolat.
Et le chocolat.
Plus qu'un anticatholicisme quand même assez fort.
C'est ce que j'ai remarqué
les deux fois
où je suis allé à Genève et où j'ai fréquenté, enfin très lointainement et avec des pincettes, enfin des gants. J'étais chez des amis catholiques qui m'avaient fourni des gants pour aller dîner et donc j'ai cru déceler un anticatholicisme hallucinant.
Oui, enfin vous ne le palpez pas aussi tangiblement que ça. C'est plus subtil, c'est plus fort dans la mesure où ça vient des familles et des groupes qui tiennent la ville.
Oui, c'est
donc,
ça.
Mais
voilà.
Cela dit, dans le protestantisme,
Isabelle.
Il y a quand même une grande tradition livresque et pour des hommes du livre comme nous
essayons de l'être. Non, mais c'était de la pure pirouette.
Non, ce que je veux dire, c'est que les protestants de Genève nous respectent en général. Nous avons très bon rapport avec l'éditeur protestant Labor et Fides, et il ne faut pas caricaturer trop facilement ces choses-là.
Eh bien voilà un point d'ordre qui est très bien venant d'une bouche autorisée. Messieurs, vos pirouettes, vous les remettez dans la poche et le mouchoir par-dessus. Hein. Bon, voilà. Alors, nous étions en train de parler du travail d'édition et de la spécificité du travail de Date Solemne, dirigé par Grégory et Isabelle Solerny. Et puis on peut s'interroger aussi, c'est une question générale, avant d'aborder l'ouvrage qui nous amène ici, sur parce qu'on entend souvent ça. C'est vrai que dans nos milieux on entend souvent ça, disons ces milieux traditionnels au sens politique et religieux, on entend souvent dire oh mais cette multiplication des petites maisons d'édition, des petits journaux, pourquoi tout le monde se mettrait pas ensemble, une seule maison d'édition, un seul journal. Pas une seule pensée, un seul parti, etc. Bon. Et moi, je trouve que c'est formidable qu'il y ait autant de petites maisons d'édition. En France, il y en a un nombre absolument invraisemblable. Je ne vais pas citer de nom pour pas faire de peine à ceux que j'oublierai de citer, mais il m'en vient tout de suite une dizaine en tête, qui font un excellent travail éditorial, où sont édités des auteurs qui ne seraient jamais édités dans aucune autre grosse maison. Peut-être qu'Edith Stein aurait pu être édité, ce sont les poèmes d'ailleurs d'Edith Stein qui sont des poèmes, c'est absolument prodigieux, c'est très très beau, c'est un très très beau livre. Aurait pu être édité peut-être chez un grand éditeur de la rive gauche.
Oui, non, c'est absolument.
Un des trois qui se partagent le Goncourt. Bon. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et on a comme ça la chance d'éditer des auteurs qui ne trouvent pas leur place. Alors c'est un petit travail, évidemment, nous ne tirons pas, enfin je ne veux pas anticiper sur vos propres tirages, mon cher camarade, mais enfin nous ne tirons pas des dizaines de milliers d'exemplaires chacun de nos volumes. Mais la multiplication des volumes et la multiplication des maisons d'édition fait que nous mettons sur le marché Allez, parlons comme les égouts d'aujourd'hui, comme si on était, comment ça s'appelle, les...
Je ne suis pas des communicants, vous voulez ?
Non, pas les communicants, là, les golden... Alors, nous mettons sur le marché...
Les golden, ce sont des pommes, non ?
Au moins 1500, 2000 ou 3000 titres, je parle de la langue française, qui, sans quoi, ne seraient jamais édités. Voilà. Alors, je ne suis pas contre, ni sur la multiplication des journaux, ni sur la multiplication des maisons d'édition. Moi, je suis pour... Plus on est nombreux, mieux ça vaut. Oui, Jean-Baptiste Chaumeil.
Je reprends.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Si, tout à fait d'accord. Et je lisais il n'y a pas très longtemps.
Parce que vous devriez être chez Barclay, là, le Cœur Montjoisanier, alors vous auto-éditez.
Oui, monsieur Marouani.
Vous avez vendu des dizaines de milliers de titres.
En plus, le dernier,
c'est très, très bien. Les disques compacts, le 11, moi j'en vends comme des petits pains dans ma petite officine.
Très bien.
Et les cassettes, ils ont vendu des dizaines de milliers de titres. C'est extraordinaire. Vous connaissez le Cœur Montjoisanier, Grégory ?
Oui, non.
Je crois que. Non, vous ne connaissez pas. Isabelle, vous connaissez. Isabelle, oui. C'est pas Chant de France, les gens sont 11e Chant d'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chants d'enfants, les Chants de
Rosaire,
le Rosaire, magnifique, le Rosaire avec tout, c'est superbe tout ça.
Donc je voulais dire à propos de la multiplication.
Ça fait 20 ans qu'ils nous cassent les oreilles, le Cœur Montjoisanier.
Et oui, mais enfin pour le plus grand plaisir des enfants aussi. Non, mais sur cette multiplication des maisons d'édition, journaux, etc., je lisais de souvenirs d'un résistant qui était directeur de Paris Match, je ne me rappelle plus de son nom. Et alors, il était envoyé par un groupe pendant la résistance, pendant la guerre. Il était envoyé par le Conseil national de la résistance. Il venait de Clermont-Ferrand. Il arrive dans un petit maquis du Cantal. Et dans ce petit maquis du Cantal, il y avait un chef de bande qui avait 40 gars sous ses ordres. Et puis, il commence à leur faire un grand laïus en expliquant qu'il faut absolument s'unir, vraiment faire bloc pour la libération, etc., que les billets allaient tomber du ciel par paquet de mille, etc., et que tout ça allait, on allait tous se réunir.
C'est vrai d'ailleurs qu'il est tombé du ciel, c'était des faux, mais il est tombé du ciel.
Et à ce moment-là, il a fini son laïus au bout d'une heure, une heure et demie, il se tourne vers le chef du maquis, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire ? Et le gars dit, écoutez, moi je suis contre l'union. Je suis pour la guerre bordéliforme. En se réunissant, on s'affaiblit. Le type est reparti vers Clermont-Ferrand et les gars ont continué à manger du fromage et du saucisson. Et c'est vrai que dans nos milieux,
C'est vrai que les Français, alors évidemment, Grégory Solari nous regarde comme de très très loin. Comme,
des dinosaures.
Oui, comme des dinosaures.
Comme Fabre.
Non, en grande partie, les dinosaures.
Comme Fabre, regardez,
oui, en gros, ça, on regarde des dinosaures, mais c'est français, vraiment. C'est vrai qu'on a quand même gardé dans le caractère, c'est quand même curieux d'ailleurs, qu'on a gardé ce caractère un peu gaulois. C'est vrai. Bon, c'est quand même la base ethnique. C'est vrai que c'était la base ethnique de la France, et on a été quand même relativement civilisé par les Romains, puis ensuite quand même bien managé par les Francs. Faut dire les choses comme elles sont.
Vous ne négligerez pas, je l'espère, l'apport énorme des Celtes.
Ah, les Celtes, oui, mais...
Et les Bretons.
Oui, mais bah, enfin, j'étais dans un petit réduit, les Bretons, là-bas. C'était un petit bonhomme, c'est dans les livres. Non Non.
Moi, je demanderais que l'on observe l'apport essentiel des Auvergnats.
Les Auvergnats, bien sûr, parce que...
Oui, qui est beaucoup plus douteux, mais enfin, je veux bien concéder ça à notre ami.
Vers Saint-Jean-X, premier résistant de France.
Bon, est-ce que je vais arriver à faire cette émission? Je n'en suis pas sûr.
Comme dit Linda Lemay, c'est maudit français.
C'est maudit français. Donc c'est vrai qu'on est un peu bordéliforme. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Mais je trouve ça plutôt bien. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a des grands débats en France. On est vraiment le grand pays des grands débats. Parfois des débats creux. Je parle des débats qui agitent notre microcosme à nous. Là, sont comme des débats intéressants. Mais on se bat des fois sur des têtes d'épingle. Alors que tout est une question de... Les choses sont plus complémentaires que contradictoires. Enfin, c'est mon sentiment. Jacqueline revient avec non pas une brassée de fleurs, mais une brassée de messages. Accepteriez-vous, messieurs, que nous élisions quoi? Alors, tout ce qui m'insulte, moi, personnellement, c'est pas la peine de le mettre, parce que j'ai l'habitude, c'est toujours les mêmes.
Prenez en compte quand même.
Oui.
Bon,
c'est intéressant, voilà. Bah, alors, je vais vous dire, ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de peine, voilà un message qui me fait de la peine. On fait allusion tout à l'heure au travail magnifique de Didier Rance dans le livre de Tolkien, Faerie et Christianisme, publié chez Hatzelem, et on rappelle quand même que Didier Rance s'est illustré aussi dans le travail qu'il fait dans cette association fondée par le père Winfried, c'est ça?
Werenfried.
Moi, je ne suis pas très... pas comme les Suisses, moi, je ne parle pas quatre langues. Déjà que j'ai du mal à causer le français, alors vous imaginez. Alors, l'aide à l'église en détresse. Évidemment, un auditeur nous envoie un message. Ne parlez pas de l'officine. Aide à l'église en détresse. Cette organisation abuse les catholiques et leur soutire de l'argent qu'elle va ensuite remettre aux gens de la secte hétérodoxe en Russie, ce qui permet aux hétérodoxes de persécuter plus facilement les catholiques russes.
Je crois que cet auditeur a une information au moins partielle de l'aide à l'église en détresse.
Vous avez la subtilité des hétérodoxes russes. Alors, différemment, c'est les orthodoxes russes. Mais non, c'est les hétérodoxes. Oh là là, heureusement que Jean-Gilles Magliarakis n'est pas avec nous dans le studio, mon cher auditeur. Ah, bon. Alors voilà, plusieurs auditeurs me demandent de laisser parler mes invités. Bon, voilà. Je vais parler, moi je vais rentrer, vous soufflerez la lumière, et puis voilà.
Bon, alors, là c'est un auditeur, je pense. Messieurs, j'ai entendu sur la radio d'État un éloge du film comme quoi il représentait l'humanité qui s'accomplissait elle-même en se libérant de la tutelle divine. Merci de votre indispensable commentaire.
Ah bah alors, et justement, oui, là, oui, je fais le commentaire tout de suite, parce que, évidemment, alors, le film, encore une fois, je dis le film, ce n'est pas Tolkien, évidemment, c'est intransposable au cinéma. Bon. Ça ne peut être transposé que dans nos cerveaux à nous. Mais on va sur Tolkien lui-même, parce que on n'est pas venu là pour faire une critique du film. On a parlé du film, il amène à la lecture de Tolkien, ce qui est déjà pas mal. On verra que c'est tout à fait le contraire chez Tolkien.
Et une auditrice, peut-on parler de Tolkien pour les enfants?
C'est pour les grands enfants.
Si vous êtes resté un grand enfant, vous pouvez lire Tolkien, mais il faut être un grand enfant.
Au sens évangélique. Tolkien n'a pas fait que Le Seigneur des Anneaux. Il a écrit Bilbo le Hobbit, qui est une histoire déjà beaucoup plus accessible, pour un enfant. Le Seigneur des Anneaux, non. Vous le dites, c'était
pour les grands.
On demande aussi de parler un petit peu moins vite et de déplier les noms des auditeurs.
Les noms des auditeurs, je ne peux pas.
Pardon. Excusez-moi, c'est le 1er janvier.
Oui. Ah bah oui, mais alors dites-moi alors...
Le nom des invités, pardon, oui, pourtant je ne bois pas.
Non mais c'est vrai, comme la semaine dernière, vous avez encore les yeux bordés de reconnaissance. Donc je pense que ça...
Le nom des auditeurs de Les Éplés, et puis aussi le nom des éditeurs.
Eh bien voilà, nous entendons avec Grégory et Isabelle Solari, des éditions Ad Solem. Je ne vais pas donner l'adresse d'édition Ad Solem, puisqu'on trouve les livres partout, chez les libraires, y compris chez Duquesne, j'espère bien que...
Je n'ai pas vu tous nos livres chez Duquesne Diffusion.
Moi, ils me prennent tous les miens. Voilà. Moi, je ne fais pas de choses sur Tolkien, donc je ne risque pas de... Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme message, ma petite Jacqueline? C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? Encore des trucs rigolos, non? Non, bon, si vous riez comme ça, c'est que vous êtes encore bien agréable pour moi. Bon, alors, très bien. Là, c'est bien comme de venir faire de la radio le 1er janvier, en direct, et aimablement, gracieusement, en tout sens.
Faites un petit peu moins de facéties.
Oh, écoutez, c'est mon style, hein. Ça s'appelait pas les feuilles. Vous tournez les boutons, il y a des radios qui sont bien, bien constipées. Si les gens n'aiment pas les facéties, ils ont calé sur la radio constipée. Non, faut pas exagérer quand même, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui disent ça. Et d'autres aiment beaucoup les facéties. C'est agréable, un 1er janvier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va faire du lamento, on va passer quoi, un Stabat Mater, et puis on va se mettre à pleurer autour de la table. Enfin bon, c'est
ridicule. On peut faire une émission style France Culture, si vous voulez. En pleine nuit, et on parle de la dodécaphonie appliquée aux cochons.
À l'élevage du cochon breton. Ça, c'est très...
Mais avec un air très sérieux, car on ne rigole pas de ces choses-là.
Non, monsieur, on ne rigole pas de l'élevage du cochon en Basse-Bretagne, ni de la dodécaphonie.
Oui. D'autant que le cochon, quand on l'élève avec du Schoenberg, se sent beaucoup mieux.
Il
donne du bon gras.
moi, j'aurais voulu répondre à cette auditrice qui est certainement une mère de famille comme moi et qui se pose la question de l'enfant, l'importance de la formation de l'imagination chez l'enfant, parce que nous savons que l'enfant n'a pas un intellect développé de façon suffisante pour comprendre.
Ça arrive chez les grandes personnes aussi.
Trop difficile, oui. Mais et donc l'enfant a une imagination particulièrement développée qui doit être nourrie et bien nourrie. Et c'est exactement le propos, et c'était le souhait de Tolkien, qui était lui-même père de famille, de nourrir cette imagination de ses enfants. Et en fait, il a écrit Bilbo le Hobbit pour ses enfants, et Le Seigneur des Anneaux est la la continuation de ce Bilbo le Hobbit. Alors, il se trouve que en écrivant Le Seigneur des Anneaux, il a été pris par son sujet et emmené beaucoup plus loin que ce qu'il pensait au début. Ce qui fait que Le Seigneur des Anneaux, comme vous l'avez souligné, n'est pas vraiment fait pour des enfants. Et donc, il permet à nous autres adultes de nourrir aussi notre imaginaire et nous faire accéder à un monde tout à fait extraordinaire. Mais n'empêche que l'idée, enfin la volonté première, c'est quand même de ce dont Tolkien a pris conscience, c'est que le monde moderne dans lequel nous nous trouvions portait atteinte à l'innocence de l'enfant et à la formation de cette imagination, et que si l'imagination n'est pas bien formée, si l'affectif de l'enfant n'est pas bien nourri, etc., l'enfant ne peut pas se développer et devenir un homme à part entière, et donc développer son intelligence et sur le plan religieux, j'allais dire, son accession à la doctrine, à la théologie, etc. Donc c'est ça le point de départ du Seigneur des Anneaux, de la volonté créatrice.
Magnifique exposé, hein, là, chapeau bas.
Donc finalement, on a raison de ne pas faire du France Culture.
Voilà, on a raison, c'est quand même beaucoup plus intéressant sur Radio Courtoisie que faire des choses comme elles sont, hein, parce que franchement...
Non mais je crois que c'est très très vrai pour rebondir sur ce
Monsieur Étienne Grandterre,
Isabelle Solari.
Madame Solari, l'imaginaire des enfants, aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de parents ne s'en préoccupent quasiment pas forcément par hostilité, surtout pas par hostilité, mais par une espèce d'indifférence, beaucoup d'inculture, de l'ignorance, et finalement, ils ne surveillent pas ce qu'on leur met dans la tête, que ce soit à l'école, que ce soit les images agressives qu'on voit partout dans la rue, qui déjà nous agressent, nous, adultes, qui quelquefois, par bonheur, et je crois que c'est mon cas, avons été formés, mais c'est quand même agressif. Donc, c'est très important, effectivement, de développer, de la part des parents, une culture de l'imaginaire qui soit sage, reposante affectivement pour les enfants, qui ne soit pas agressive, qui ne les bouleverse pas intérieurement. J'ai eu une expérience très très récente où j'ai croisé un petit enfant, c'était cet après-midi, qui parlait de ce qu'il avait vu dans la rue. Et dire ça me fait peur. On m'a parlé aussi de certaines galeries Lafayette où vous savez, il y a des décors de Noël et il paraît que c'est très très sanguinolent, et il y avait des enfants qui disaient bon, on voit pas le reste, on veut pas voir le reste, maman. Enfin, je veux dire, pardon de faire cette digression, mais je crois qu'elle est importante. Et l'utilité d'un imaginaire qui a été contrôlé, il n'y a pas l'imprimatur en ce qui concerne Tolkien, mais en revanche, c'est sain et saïen, et ça ne peut qu'encourager les enfants à se former petit à petit à des choses, je dirais, une croissance douce. C'est pas une croissance.
Alors, on dit que je parle beaucoup, mais enfin, alors là, avec Grantaire, une fois qu'il a pris le micro, il ne lâche plus. Hein.
Pour Tolkien, le rôle de l'imagination n'était pas seulement lié à une formation de l'enfant, il était lié à une anthropologie. Pour lui, la féerie, en fait, il faudrait dire féerie, parce que le mot n'existe pas en français, et le décalier comme ça de l'anglais est un peu. Donc, disons féerie. La féerie, pour lui, était un pont, on pourrait utiliser cette image, un pont vers un univers intermédiaire, à mi-chemin entre le monde humain, celui dont nous faisons l'expérience autour de nous, et le monde divin. Donc un monde intermédiaire qui est une propédeutique finalement à la révélation chrétienne. C'était son intention première. Il l'a théorisé dans un essai extraordinaire qui porte le nom de Féerie précisément, et il l'a mis en pratique dans Le Seigneur des Anneaux.
Alors, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Isabelle Isabelle Solari, excusez-moi.
Solari, voilà.
Je m'excuse, mais connu, longtemps. Elle est restée toute belle et toute jeune, pas comme moi, parce que les femmes vieillissent beaucoup moins vite que les hommes. Vous avez remarqué ça tous, messieurs.
Bien sûr, la mienne particulièrement.
Bah écoutez, c'était nous, on vieillit, mais les femmes se conservent. C'est spécial. C'est une race à part. Alors, je ne sais pas si c'est des hobbits ou des... Je sais pas, mais c'est très très spécial. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, le premier, donc, c'est Bilbo le Hobbit. Donc, c'était son premier roman. Mm-hmm. Et quand il a voulu le faire éditer, bon, l'éditeur a jeté un œil un peu tendre là-dessus, sur ce que c'est que ça, et a donné à lire à son petit garçon, qui était 10 ans.
Oui, c'est ça.
Et le gosse a dit à son père éditeur,
c'est formidable,
ça a été édité, et ça a été un succès.
Mais c'est un succès.
Un succès tout un phénoménal. Déjà, à l'époque, c'est phénoménal. Et ensuite, évidemment, devant le succès, alors là, c'est l'éditeur. Là, c'est plus l'enfant.
fasciné par ce qu'il a lu. C'est l'éditeur qui dit ouh, il y a du bon argent à faire. Bon, monsieur, vous allez me faire une suite. Et plus vite que ça, ça a pris 17 ans, quoi, à peu près.
Ça a pris 17 ans. Et puis les 40 premières pages que vous soulignez au début d'émission, si difficile à traverser.
Compliqué.
C'est finalement le reliquat de ce qu'il voulait faire. Donc une suite à Bilbo le Hobbit. Puis il s'est rendu compte à la 40e page que non, ça tenait pas. Parce que d'une certaine manière, l'anneau commençait à avoir de l'emprise sur ses personnages, mais sur lui. Et puis le monde devenait plus obscur autour de lui, etc. Alors il a été comme pris, il a comme découvert une veine dans le langage, on dirait. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Irène Fernandez, j'aimerais bien citer son livre et la citer. Il y a deux livres qui sont sortis sur le christianisme de Tolkien, le nôtre, et celui de Irène Fernandez. Et par rapport à tous les autres qui sont sortis pour dire n'importe quoi sur Le Seigneur des Anneaux et Tolkien... Irène Fernandez a très bien montré aussi cette volonté chez Tolkien. Un homme qui écrivait pour lui, tout d'un coup d'être pris par un sujet dont il n'avait pas l'intention prochaine, mais qui s'est comme révélé à lui. Il y a un mystère du langage qui est là, mystère du verbe. Tolkien a médité toute sa vie sur le mystère du langage.
C'est un grand intellectuel, il faut comprendre que c'est un personnage... Alors, faut dire quand même deux, trois petites choses. Donc, il est né en Afrique du Sud... son père part en Angleterre, enfin la mère patrie, pour régler les affaires, je sais pas quoi.
Ses parents sont les deux natifs d'Angleterre. Son père, à la fin du siècle dernier, part en Afrique du Sud pour améliorer sa situation financière.
Il n'est pas né en Afrique du Sud.
Non, il n'est pas. Si, Tolkien va naître.
Tolkien va naître.
Son père décède lors d'un retour en Angleterre.
Voilà, c'est ça.
Provisoire. Sa mère repart en Angleterre. Elle s'installe dans les Midlands, donc près de Birmingham, une région qui commençait à être défigurée par la révolution industrielle, mais qui était en même temps la patrie de grands poètes anglais, de musiciens comme Elgar, etc.
Elle se convertit au
catholicisme. Elle se convertit dans des circonstances finalement inconnues. Tolkien n'en a pas parlé, pourtant il devait le savoir, il n'a pas cru devoir le dire. Elle s'est en tout cas convertie dans le sillage du cardinal Newman, puisque Tolkien va aller jeune écolier dans l'école fondée par Newman quelques décennies auparavant. Il va perdre sa mère très tôt, mais cependant il va garder un souvenir tout à fait extraordinaire d'une femme qui, jusqu'à la fin de sa vie, qui sera courte, aura jusqu'à une misère noire...
Souffert pour sa foi,
mise au banc de sa famille, mise au banc de la société, etc. Tolkien ne l'oubliera jamais. Et dans la figure de cette mère, très forte, il a puisé...
Tout à l'heure, on daubait sur l'attitude des calvinistes vis-à-vis des catholiques en Suisse, mais l'attitude des anglicans par rapport aux catholiques en Angleterre, c'est pire. Mais il se trouve que par une espèce de providence bizarre, que chacun interprète comme il veut, il n'y a plus de catholiques que de calvinistes maintenant à Genève, et il y a beaucoup plus de catholiques en Angleterre que d'anglicans.
Oui.
Alors maintenant, il faut juger la qualité de la foi. Peu importe. Mais... c'est comme ça, moi je suis un homme simple, et il faut me parler simplement, avec des images.
Et en même temps, il y a un alter ego avec Tolkien en Angleterre, qui est un alter ego anglican, c'est C.S. Lewis qui a produit les chroniques de Narnia, la trilogie cosmique, etc., qui a une œuvre comparable à celle de Tolkien, avec le même souci de, moi j'appelle ça réévangéliser l'imagination.
Oui, c'est votre expression.
Sans doute, chez Tolkien, avec un cœur de père plus présent, plus chaud, plus doux.
Il a eu un fils qui était prêtre catholique.
Alors il a eu un fils qui va être prêtre, Christopher, qui est d'une certaine manière son préféré. C'est à Christopher qu'il a écrit les plus belles lettres qu'un père, de direction spirituelle qu'un père a écrit à son fils.
C'est pas publié en français.
Christian Bourgois a annoncé pour l'année prochaine la traduction, j'espère, intégrale des 354 lettres de Tolkien, pas à son fils, mais général, mais les 40%, c'est à son fils. Et alors là, on va découvrir un Tolkien tout à fait extraordinaire. On a voulu le faire dans le livre, on a cité quelques lettres.
Mais c'est lui qui aide Lewis à se convertir aussi
catholique. Oui, c'est ça. Lewis est un déiste à ce moment-là, il ne sait pas trop. Et on parle mythologie un soir entre Tolkien et lui, et Tolkien lui dit, l'incarnation, Dieu qui descend sur Terre, qui devient un petit enfant, des mages qui arrivent, etc., tout ça c'est de la mythologie, on trouve ça ailleurs. Et Tolkien le regarde et très tranquillement lui dit, mais c'est le mythe entré dans le temps, et c'est un mythe qui est vrai, qui dès lors justifie toutes les mythologies antécédentes et successives. Donc, alors au grand dam de Tolkien, Lewis retournera son anglicanisme, mais ils resteront de très très bons amis, je veux dire. Et grâce à ça, Lewis va construire ses chroniques de Narnia et sa trilogie.
Okay, une chose magnifique. Donc, alors c'est un intellectuel prodigieux qui connaît énormément de langues anciennes.
C'est un philologue.
C'est un philologue, mais ça se comprend puisqu'il invente même
un langage
pour la communauté de l'anneau, enfin pour le Seigneur des Anneaux. mots, il invente un langage extraordinaire, enfin plusieurs langages d'ailleurs, parce qu'il y a le langage...
Il y a le langage des orques, il y a le langage des elfes, il y a
voilà,
le langage
voilà, voilà.
Des rois de Gondor, etc.
C'est pas du tout les mêmes sonorités,
non,
avec une linguistique, un vocabulaire, enfin, dans le film d'ailleurs, il y a deux, trois passages où les personnages, les elfes parlent, et puis le héros, celui qui protège le petit, là, comment il s'appelle, quand il fait sa cour à la jeune elfe.
Aragorn fait un poème en langue d'Aragorn.
Aragorn est un homme, mais il parle la langue des elfes.
C'est la langue des elfes. Vous avez raison.
Parce qu'il est appelé à une haute destinée qui d'ailleurs devrait vous plaire puisqu'elle est royale.
Bonne chose que je vous ai dit. Tiens, on n'a pas parlé du roué. Voilà, ça y est.
le troisième tome du Seigneur des Anneaux s'appelle Le Retour du Roi.
Le Retour du Roi, oui, tout à fait. Ben, nous en sommes encore là. Nous attendons.
Et c'est quand?
Bientôt sur les écrans.
Le retour, oui.
J'ai un éditeur qui a beaucoup aimé la mise au point de Madame Solari, la mise au point concernant le protestantisme. Monsieur Ami, ne pouvez-vous pas vous ouvrir au protestantisme? Non,
pas bon, excusez-moi, mais je ne suis pas de ce genre-là.
Pouvez-vous, un auditeur?
Non, mais j'ai beaucoup de sympathie pour. Vous savez, bon, moi je ne veux pas faire, on n'est pas là, on n'est pas chez Jacques Chancel, hein, donc on n'est pas là pour faire de la confession par téléphone ou par micro interposé. Mais j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui ont une foi. J'ai beaucoup de respect. Évidemment, j'ai un respect, une affection plus particulière pour ceux qui partagent la foi dans l'incarnation et dans la résurrection. Pour le reste, ce sont souvent des questions d'histoire ou des questions d'homme ou d'hommerie. C'est pas très grave. Mais j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont une foi, je le dis ici très, très sincèrement. Étant entendu que toutes les religions, toutes celles qui ont existé dans le passé, qui continuent à exister aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est toujours les religions de, c'est l'homme qui cherche Dieu, alors qu'avec la révélation chrétienne, bien, c'est Dieu qui vient chercher l'homme, ce qui renverse totalement la nature de la relation entre la créature et son créateur.
Voilà. Et puis sur Radio Courtoisie, puisque nous y sommes, pouvez-vous redonner...
Mais j'aime beaucoup les protestants, et disant cela, j'embrasse aussi les protestantes.
Pouvez-vous redonner l'adresse de l'édition Absad?
Je ne vais pas la redonner, je vais la donner si on le veut bien, mais bon, c'est très bien, vous pouvez toujours écrire en Suisse, hein, donc c'est 2 rue des Voisins.
C'est ça.
Ou alors c'est rue des Voisins, -2.
Ça,
la Suisse. Ça reviendra. Rue des Voisins, -2. Alors, vous mettez CH.
Vous allez trop vite.
Je vais refaire. Mettez un grand C, un grand H, un ch'ti tiré. Et vous écrivez 1205, Genève. Voilà. Alors je le redis encore. 2 rue des. Ad Solem, ça veut dire vers le soleil ou au soleil. C'est une belle maison d'édition pour le temps qu'on vit actuellement à Paris. Bon, Ad Solem, 2 rue des Voisins, 1205, Genève.
Et même
c'est, dans accent... le canton, c'est dans le canton de Vaud, ça se trouve.
Ah non, c'est dans le canton de Genève.
C'est dans le canton de Genève, c'est un canton
de
Genève.
Et même sans accent, le courrier parviendra.
Le courrier parvient. Qui est-ce qui parle plus lentement? C'est les gens de Lausanne qui parlent encore plus lentement que les...
Oui, je suis Genevois et je vous dis ça avec mon accent vaudois, donc...
Vous n'avez pas... Alors je vais vous dire, mon cher camarade, vous n'avez pas du tout d'accent. Hein.
Mais précisément...
Ça ne se remarque pas.
C'est ce qu'il veut vous expliquer, c'est que l'accent que les Français caricaturent est souvent l'accent vaudois.
C'est
pas Genevois.
C'est comme l'accent belge, il y a tellement d'accents différents en Belgique que ça n'a aucun sens. Voilà, donc vous avez lu tous les petits messages. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, nous entretenons avec Grégory Isabelle Solari, sur la maison d'édition CFM, mais surtout sur les livres qui vient de paraître, Tolkien, Faerie et Christianisme, avec les collaborations de notre camarade Grégory Solari, de Didier Rance, du diacre Didier Rance et de Stratford. Caldecott, ça c'est très compliqué à prononcer. Non mais vous sauriez faire ça, Caldecott, qui est professeur Oxford, il parle le français, monsieur Caldecott?
Non,
pas du tout.
Il le lit.
Un jour on aurait pu le faire venir pour parler de ses études sur Tolkien. Alors, féerie et christianisme. Alors, évidemment, critique numéro un, nous l'avons dit tout à l'heure, et c'est passé ici dans les courriers, dans les messages auditeurs, on parle pas de Dieu, il semble pas qu'il y ait de religion, il n'y a pas d'allusion au Christ, alors pourquoi lire 3 gros volumes?
Mais il faut distinguer l'homme, il faut distinguer son œuvre. En distinguant ces deux plans, on peut aborder le Seigneur des Anneaux avec une perspective ou une autre. Alors, on a jusqu'à aujourd'hui en France, et c'est le livre qui a suscité ces exégèses, les premières études sur Tolkien sont sorties l'année passée, et toutes ont insisté sur effectivement l'absence de religion, l'absence de culte, etc., sans jamais s'informer auprès de la source, l'auteur, de ce qui avait été son intention première. Et sans bien sûr relever le fait qu'il était un ardent chrétien.
Catholique.
Et catholique. Alors,
mais c'est comme une quotidienne.
Je pense que la méfiance du lectorat catholique, mais vous savez que même que, bon, la méfiance est un peu générale dans les milieux chrétiens, vient du fait que, précisément, ce sont non pas les adversaires, mais des gens pas forcément hostiles, des gens, disons, complètement indifférents. Quelquefois, ils ne le sont pas, et ça procède d'un parti pris un peu new-agien ou ésotérique, je ne sais pas comment vous appelez ça, d'une oblitération du fait que Tolkien était un homme et un catholique et un chrétien. Et deuxièmement, de ne pas s'être informé auprès des lettres, de ne pas avoir lu les lettres, de ne pas avoir lu Ferry, pour prendre la mesure de ce que Tolkien a essayé de faire dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Cette idée d'imagination, cette idée de Ferry procède chez lui du thème de sous-création, de la notion de sous-création. Autrement dit, le monde est créé, l'homme est créé, et il est créé à l'image et à la ressemblance de son créateur, qui est lui-même verbe, qui est lui-même artisan, et qui a fait la plus belle des œuvres, le plus beau des chefs-d'œuvre, la création. Parce que l'homme est créé, et donc vous voyez qu'on s'inscrit directement dans une perspective de foi chez Tolkien, parce que l'homme est créé, alors à son degré, à son niveau, il peut à son tour créer aussi. Et il crée des univers secondaires. Tolkien appelle ça donc des sub-creations, des sous-créations, des créations secondaires.
L'homme est appelé à la procréation et aussi à cette autre procréation au sens génétique.
Oui.
C'est de procréer. Et tout le débat actuellement sur... je redonne la parole tout de suite, vous savez. Je participe à la radio, côté de la micro, je ne peux plus voir. C'est cette histoire du clonage, enfin, quand on réfléchit bien à la signification de ça. C'est, encore une fois, c'est le refus de la paternité et c'est le refus du Dieu créateur de l'homme. On ne veut pas que l'homme soit créé à l'image de Dieu. C'est ce qui se passe dans ce qu'on voit dans ces... Enfin, sous cette... Comment ça s'appelle? Les clonages, machin truc. C'est exactement la philosophie des grands ancêtres. Il faut comprendre que les philosophes du XVIIIe siècle, les gens des Lumières, mais c'était la même chose. Ils avaient une conception d'anthropologie de l'homme qui n'est absolument pas ce qu'on vous dit dans les livres. Qui était pour la raison, pour la liberté de l'homme. C'est du pipeau. À partir du moment où on ne reconnaît pas que Dieu est le créateur et qui crée l'homme à son image, on crée un clone. Enfin, on a au plan mental, au plan logique, on crée une espèce de clone de l'homme. Ce n'est pas un véritable être humain.
Oui.
Et formidable cette histoire de clonage. Je fais un petit truc parce que vraiment c'est un sujet d'actu, puis vous amenez aussi à commenter là-dessus. Je voulais faire cette petite réflexion.
D'où l'utilité des majuscules. Et quand vous dites clonage, dans le langage, on observe, bon, c'est là encore un peu une pirouette, mais c'est de mon niveau, donc je te demande pardon par avance aux auditeurs les plus lettrés.
On a besoin de clous aussi. Il n'y a pas de bonne piste de cirque.
Du coup, les libertés dont le Créateur donne l'usage à l'homme, des libertés précises qui sont définissables, se transforment, se singularisent, elles passent au singulier et prennent une majuscule. Il n'y a plus que la liberté, cette espèce de grand Moloch qui est prête à tout aspirer.
Oui. Alors je vais dire que cette histoire du clonage m'invitait à plusieurs réflexions, celle-là je viens de la faire. Une autre aussi, c'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de ce petit homme ou de ce petit homme qui est lui aussi, même dans le ventre de sa mère, vraiment conçu, enfin, à l'image de Dieu. C'est... parce qu'on sait que, bon, alors non, on est contre absolument le clonage, comment ça s'appelle, absolument, c'est le Rovari mondial contre le clonage reproductif. Mais on n'est pas contre le clonage thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a cette double attitude qui est tout à fait compréhensible. On hait l'enfant pour ce qu'il est, EST, et on le cajole pour ce qu'il a. c'est-à-dire les morceaux de lui qu'on va pouvoir prendre pour rafistoler un foie d'un hépatique ou bon, etc. C'est quelque chose, mais d'absolument invraisemblable. Et cette haine, cette singerie, parce que ce qu'on voit dans Clonage, c'est une singerie, c'est rien plus qu'une singerie, on sait d'où ça vient, et nous ne prononcerons pas le nom ici, mais c'est un nom qui ne se prononce pas. Voilà. Eh bien, on y est. Voilà, alors excusez-moi d'avoir fait cette petite parenthèse, mais c'est, ça me semble vraiment bon, important. Alors, revenons à Tolkien, où on n'en est pas très loin.
On n'était pas loin, tellement pas loin que dans le film, c'est très bien vu, mais le deuxième volume du livre est celui où on voit la démultiplication des orques. Les orques sont clonés, ce sont des êtres qu'on reproduit comme ça, ils sont tous les mêmes. Ils obéissent à Saruman, donc la poupée de Sauron, qui est celui que vous ne voulez pas citer dans cette émission. Et le titre du deuxième volume, et c'est le film à l'écran aujourd'hui, c'est Les Deux Tours.
Les Deux Tours.
Or, il y a deux tours qui sont tombées il y a quelque temps au-delà de l'Atlantique, ouais. Des tours jumelles, des tours clonées, parfaitement les mêmes, et c'est l'univers du clonage qui, d'une certaine manière, s'effondre.
Alors qu'en France, on a connu cette année deux tours parfaitement différents.
Parfaitement du tout. D'accord. Bon. Merci, camarade Étienne, de cette.
Je peux aller me coucher maintenant.
C'est bien, alors c'est bien. On atteignait à des choses. Vous voulez dire quelque chose, Isabelle? Non, parce que je vous vois faire du. Non, bon. Non, mais il faut le dire, si vous voulez parler, vous parlez. Alors, Tolkien, donc je vous ai arrêté, malheureusement, à un moment crucial où vous alliez dire des choses très très intéressantes.
Non, on parlait de la création, le rôle de la création.
J'ai fait la procréation et vous étiez à la sous-création.
Voilà, alors la sous-création, c'est une création analogique, appelons-la comme on veut, les métaphysiciens de métier y mettront les bémols qu'il faut. Mais donc à son degré, à son niveau, l'homme crée, l'homme sous-crée. Et qu'est-ce qui fait la valeur de sa sous-création pour Tolkien? C'est la clarté morale de son auteur, c'est-à-dire son ouverture personnel, l'ouverture de son intelligence et de sa volonté à la lumière, et pour Tolkien à la vérité. Et alors, dans l'œuvre qu'il produit, il va découvrir un surcroît. Un surcroît qui va dépasser, encore une fois, cette intention prochaine que j'évoquais, et qui a retenti sur Tolkien en premier, puisque il a une lettre tout à fait étonnante où, à 30 ans de distance, il relit son livre, et il découvre en lui des choses qu'il n'avait pas vues. Et dans cette idée de sous-création, dans cette œuvre participée, pourquoi Tolkien n'a-t-il pas voulu, laisser passer, laisser transparaître plutôt sa foi? C'est parce que là, il faut se situer dans la cosmogonie de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est un épisode dans une cosmogonie plus vaste, qui commence avec un livre intitulé Le Silmarillion, qui chronologiquement a été publié post-mortem, après la mort de Tolkien, alors que lui voulait qu'avant Le Seigneur des Anneaux, Le Silmarillion paraisse. Alors Le Silmarillion, c'est quoi? C'est le grand récit de la création. C'est une espèce de magnifique poème de la création. Et quand je dis que c'est le poème de la création, si vous ouvrez le Silmarillion, vous aurez littéralement un décalque des jours de la création de la Genèse.
Ce qui en grec est un doublon, hein, parce que création, c'est poiesis.
Oui, tout à fait.
Poiesis, c'est la création.
Création, état adamique, semi-adamique, puis chute, succession de chutes. L'histoire le cycle de Tolkien, c'est une succession de chutes, succession de guerres, où chaque fois, des hommes se sont levés, des hommes qui, au fur et à mesure des pertes et des chutes, perdent quelque chose de leur humanité première, mais ils s'en souviennent. Et c'est toujours des univers en transition. Et c'est pour ça que dans Le Seigneur des Anneaux, qui est le dernier épisode de ce cycle, où les choses vont être restaurées, une chose revient très souvent, c'est les choses passent, les choses disparaissent, un monde est en train de disparaître, et il faut sauver ce qui peut être sauvé. Nous ne garderons pas tout, mais il faut garder l'essentiel. Et quand on ressort de la lecture de Tolkien, ce qui ressort de l'essentiel, c'est la noblesse, l'ouverture à la lumière.
Le sacrifice.
Le sacrifice.
Parce qu'on sait que on abandonne quelque chose qui est sûr, qui est menacé, mais après tout, on dit, oh, bon, c'est peut-être, c'est comme l'accident de voiture, ou la maladie, ça arrive qu'aux autres. Bon. On abandonne pour partir vers cette mission, oui, dont on sait à l'avance que on a quand même peu de chances de s'en sortir,
oui.
Et donc on abandonne déjà quelque chose en allant vers quelque chose où on risque de tout perdre.
Oui,
moi je trouve que c'était
c'est vraiment chrétien, la vertu la plus admirable des personnages du Seigneur des Anneaux et de son entre guillemets héros Frodon et Sam aussi, c'est l'humilité. Et d'ailleurs Tolkien disait dans une lettre, mon plus grand désir d'une certaine manière a été de vouloir anoblir la figure de l'humble dans mon livre. Et si vous regardez la figure de ces hobbits, qui sont des petits hommes, qui sont nous, des hommes un peu diminués, blessés par la chute, c'est le courage du choix de tous les jours, de choisir toujours pour la lumière, de choisir toujours pour le bien contre un mal envahissant. C'est très séduisant. Parce que l'anneau est très séduisant.
Le choix, l'anneau, c'est l'anneau justement, c'est l'anneau de la puissance. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une, je pense, hein, m'arrêter si, parce que je pense aux autorités, de Tolkien, c'est pas, enfin, le Seigneur des Anneaux, c'est pas une méditation sur le pouvoir, la puissance. C'est pas ça. Je crois que c'est vraiment le contraire.
Non, c'est pas une méditation.
Et que ceux qui détournent ça vers la puissance, ils sont pas dans les...
Non, mais il y a un livre hallucinant qui est sorti. Alors, on parlait de celui d'Irène Fernandez. Alors, de l'autre côté, parce que c'est vraiment de l'autre côté, il y a un livre qui est paru au PUF d'une nommée Isabelle Smadja. On va la citer, et puis il faut que tout le monde le sache.
Bah oui, qui s'appelle
Le Seigneur des Anneaux et la Tentation du Mal. Alors, les PUF, c'est une maison que moi j'aime beaucoup, c'est prestigieux. Pourquoi ils ont publié ça, j'en sais rien. Mais c'est, elle a, pour prouver que sous le texte principal de Tolkien, il y avait un sous-texte, n'est-ce pas, implicite, qui était finalement non pas l'exaltation de l'un, mais l'exaltation de la tentation du mal chez les personnages de Tolkien. Elle a mis pour prouver son propos. Sur le coup, Derrida, Foucault, Lévi-Strauss.
Enfin, faut acheter la boîte d'aspirine, hein, parce qu'on lit un truc comme ça, et dire.
Et évidemment, jamais recourir à une seule des lettres ou à un seul des propos théoriques de Tolkien. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, Tolkien l'avait vu, et dans Beowulf, qui était un poème anglo-saxon qu'il aimait beaucoup, il avait fait une conférence sur ce poème en 36. Il est question de dragon, il est question de.
Oui, on va en parler dans la deuxième partie.
Voilà. Eh bien, Tolkien disait, il avait écrit une critique à ce sujet qui s'intitulait Les dragons, les monstres et leurs critiques. Il disait finalement, alors que les dragons pour lui illustraient des figures presque christiques d'une certaine manière, très paradoxalement, ceux qui parmi les critiques anglo-saxons détestaient le poème faisaient pour Tolkien partie des adversaires en fait du dragon et de tout ce qu'il représentait, noblesse, grandeur de cœur, etc. Il faut lire le poème Beowulf pour contextualiser ce que je vous dis là.
On va lire, mais j'ai pas lu ça.
J'ai un peu l'impression que finalement on reste pas neutre quand on lit Tolkien. Il nous force à prendre position. Alors,
il nous force à prendre position comme ces personnages eux-mêmes sont obligés de prendre position, de choisir, et comme nous sommes, qu'on lise Tolkien ou pas, obligés chaque jour de faire des choix qui sont des choix difficiles.
Oui.
Même si on dit qu'est-ce que tu préfères, mon petit garçon, tu préfères un bonbon ou une religieuse au café? Ben, religieuse café, parce qu'il y en a plus. Oui, mais en prenant la religieuse café, t'abandonnes le bonbon. Donc, nécessairement, même quand il s'agit pas de sacrifice, puisque là, en l'occurrence, c'est pas un sacrifice, même quand il s'agit d'un gain, d'un acquisition, on est obligé d'abandonner quelque chose pour avoir quelque chose d'autre.
Oui, à ceci près que l'Auvergnat qui est à ma gauche, Jean-Baptiste Chemail, le confirmera, on posait un jour la question suivante à un petit enfant Auvergnat, une question très sotte, mais
ça peut
arriver.
Qu'est-ce que tu préfères, ton père ou ta mère, non?
Qu'est-ce que tu préfères? Ton père ou ta mère? Et le petit Auvergnat de répondre, moi je préfère le lore.
Alors, moi on me l'a raconté comme étant une chose de breton. Ça vous prévient, mon cher Grantaire, vous qui êtes un breton.
Je reprends la parole, pas seulement pour cette pitrerie. Je vois dans ce que dit Grégory Solari, et qui est absolument édifiant, des choses que je n'avais pas vues, mais je n'ai pas lu tout Tolkien, et j'avoue que quand j'avais 18 ans, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, ça m'est un peu tombé des mains.
C'est vrai, c'est vrai.
Peut-être, et probablement d'ailleurs étais-je trop jeune, mais je discerne des choses qui me qu'on pourrait parfaitement des échos un peu ésotériques dans tout ça.
Il y en a pas.
Alors allez-y, je vous écoute.
Cette affaire de lumière, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la caverne néoplatonicienne? Je ne sais pas.
Si vous allez à la messe tous les dimanches, et si vous récitez le credo de Nicée,
Lumen de Lumine.
Vous dites Lumen de Lumine.
Non, mais bien sûr, mais c'est sur là.
Si maintenant le New Age ou les milieux ésotériques récupèrent tout le vocabulaire religieux chrétien pour l'utiliser à leur redéfinition du monde et de la relation de l'homme avec Dieu,
on voit bien qu'ils le font.
Alors bientôt, la liturgie sera un grand silence. On n'aura plus rien à dire, sauf ceci. Mon corps, et encore ce sera louche parce que
oui, non, oui, voilà,
encore que bon, moi en cause,
non, mais c'est pas
bon, mais les enfants. Alors, j'ai compris. Ce débat est très intéressant, mais risque d'être un tout petit peu confus. Le temps passe, hélas. Voilà, encore une fois, nous avons des choix à faire parce que notre temps est limité, donc nous sommes obligés de donner des temps de parole, etc. Alors, vous restez avec nous, je pense qu'on a fait le tour et que la discussion qu'on a pu avoir, les commentaires et les gloses et les scolies marginales que j'ai pu y apporter aideront nos amis auditeurs à se procurer ce livre qui est de petit par la taille, mais ample par le contenu. Et c'est ce qui est le mieux d'ailleurs, parce que comme ça nous permet. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez noté? C'est mon livre. Ah non, c'est pas le mien. Excusez-moi, c'est votre exemplaire. Excusez-moi parce que j'ai fait des notes, mais pas aux mêmes pages. Bon, voilà. Donc le livre avec les collaborations de Stratford, Caldecott. Je vais prononcer la française parce qu'après ça fait un peu cuistre quoi. De Didier Rance et Grégory Solari. Ça s'appelle Tolkien, Faerie et Christianisme. Publié aux éditions Ad Solem. Ça vient de paraître. Ça vaut 12 €, ce qui est même en France, ça fait pas cher.
C'est raisonnable.
Donc c'est quand même pas mal, 12 €, c'est quand même très très bien. Voilà, c'est un très 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 joli livre. J'invite les auditeurs qui s'interrogent sur Tolkien et qui peut-être ont un doute sur la qualité extraordinaire du travail qu'a fait ce savant et cet homme pieux, cet homme de grande foi, à lire déjà ça. C'est une merveilleuse introduction. Je vous invite, mon cher Carla Grantaire, je vous le prêterai.
Je le ferai.
Et je mettrai
non,
mon nom.
Je vais le voler.
Non, je mettrai mon nom dedans. Et ça s'appelle Je reviens. Hein.
D'accord.
Restez avec nous si vous voulez. Maintenant, on va parler d'un autre personnage, aussi un autre grand personnage, évidemment, plus dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde français, bien de chez nous. C'est un autre grand monsieur, qui a honoré les lettres françaises, surtout qui a honoré l'esprit français, le vrai esprit français, catholique, royaliste, patriote. Magnifique, que dire de plus pour qualifier Jacques Perret, sinon de lire le petit hommage que lui consacre notre camarade Jean-Baptiste Chaumeil, dont on reconnaît là à la fois l'humilité, Violette des Sous-Bois. La violette est une fleur humble, discrète, et en même temps une forme de truculence, je trouve, qui va quand même relativement bien avec le personnage Jacques Perret, qui est quand même un personnage aussi truculent. Pas un gugus de foire, mais truculent. Hein, bon.
Oui, truculent dans le verbe, dans l'expression. Non, je cherchais une coda venenum, je cherchais la fin qui allait me tomber dessus.
Jamais.
Enfin voilà, ce petit volume de 48 pages.
Si vous y tenez, je peux faire un effort.
Comme disait Céline, votre petit livre ne me fait pas mal aux pieds lorsqu'il me tombe des mains. C'est une petite plaquette qui ne fera pas mal aux pieds lorsqu'il tombera des mains du lecteur. Enfin, ça n'est pas le but. Mais simplement une petite introduction à la vie et l'œuvre de Jacques Perret, qui est évidemment dont on ne parle plus, ses éditeurs ne l'éditent plus. On a fait un petit hommage à Perret à la librairie France Livre, là, rue du Petit Pont, en mars et avril, avec des manifestations sur des lectures publiques, projections de films, etc. Et puis, le libraire commandant les livres de Perret s'est aperçu que, par exemple, Bande à part, qui est pour moi un magnifique livre de copains, où il parle des copains, qui est un livre de souvenirs de résistance, ce livre n'était plus disponible ni même en folio, en collection folio. Il était Perret édité chez Calimard, et donc il n'est même plus disponible en folio, et pourtant il a eu le prix Interallié en 51 avec ce livre. Donc son éditeur, voilà comment meurent les...
Non mais je crois qu'en fait ils éditent beaucoup Perret, mais c'est Pierre qui les édite.
Oui, c'est ça, ouais.
Alors toi, ils se battent pas dans la même catégorie quand même.
Mais c'est ce que je pense. Parce que
le zizi c'est une chose, mais le caporal épinglé quand même c'est autre chose. Il n'y a pas de doute.
Vous prêchez un converti.
Vous parlez de Bande à part, et oui. Un auditeur qui à son niveau veut peut-être rendre hommage, et il me cite là deux petites citations que je vais vous lire. Alors c'est dans Bande à part. Hein, les grands fauteuils n'ont plus de postérieur à leur mesure. Et puis l'autre, c'est bâton dans les roues. Et c'est dans le cas peu probable où la fin des temps serait indéfiniment reconduite, nous dirons en consolation que la noblesse de l'homme est de poser des questions sans réponse.
Eh oui, là c'est pas mal vu non plus. Ouais. Parce que c'était un ça,
hasard. J'étais un homme d'une grande sagesse, une sagesse toute, toute traditionnelle. Je cherchais une citation, je la trouve plus.
Que nous sommes sur Radio
Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie.
Il y a une équipe de jeunes royalistes qui, dans les années 80,
avait
fait une revue qui s'appelle Réaction, et qui avait concocté un dossier Jacques Perret avec nombreuses contributions, et ils avaient mis en exergue une petite phrase de Perret. Voilà, il y a trop de coups de pied qui se perdent pour ne pas consacrer ce qui reste au derrière des hommes qui en réclament. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça, amusantes. Bon, voilà.
Alors c'est un personnage. Alors vous pouvez nous dire deux trois petites choses biographiques sur le personnage.
Eh bien, c'est un personnage qui a été qui est né en 1901 et qui est mort en 1992 et qui a donc...
Donc il est renaît en 1992, sa naissance au ciel.
Voilà.
Son vrai dies natalis, c'est 92.
Et donc il a vécu toutes les affres du siècle, à la fois par la guerre de 14-18, où il a perdu son grand frère Louis, et c'est une perte qui a un peu mis dans la consternation toute la famille, et qui a imprimé toutes les actions suivantes de Perret. Après des études de philosophie, il s'est engagé dans la guerre du Maroc, la guerre du Rif, en 1922, et c'est certainement à cause de l'exemple de son frère qui était un des espoirs de l'université française et qui lui a fait aimer l'histoire de France. Donc il est allé au Maroc, ensuite il est revenu en France, il est parti voyager à travers le monde, courir le reportage, il est allé chercher de l'or en Guyane. Enfin, il a découvert une petite... Ça, c'est bien dans l'esprit de Perret. Il est allé en Guyane sur l'invitation de Paul Rivet du Musée de l'Homme pour observer la vie des Indiens Aymerillon qui étaient en Guyane. Et alors, en même temps, il cherchait de l'or. Alors évidemment, il a trouvé juste assez d'or pour acheter, d'après ce que me disait sa femme, un manteau en peau de je ne sais pas quoi. Mais enfin, il a pas ramené beaucoup d'or. Mais par contre, il a découvert une crique. Vous savez que en Guyane, il y avait des... Si vous observez la carte des années 30, juste avant son passage, il y a des grandes zones blanches de terra incognita. Donc, qui n'était pas exploré. Et alors, lui a pris sa boussole et puis il a fait des tracés de chemin, etc., etc. Il a découvert donc une crique. Une crique, c'est un bras de rivière là-bas. Et comme elle n'était pas marquée sur la carte, il lui a donné le prénom de sa fiancée qui s'appelait Alice. Et il est revenu en France et ça a été enregistré à l'IGN. Vous pouvez voir sur les cartes de la Guyane. Crique Alice, Jacques Perret, 1931. Donc, un très joli cadeau de
fiançailles.
De fiançailles. Et ensuite,
ça coûte,
donc,
bah, ça coûte moins cher.
Ça met la barre très très haut pour le mariage.
Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on découvre, nous, pour nos... voilà. Et donc, ensuite, il est allé aux États-Unis pour suivre un concours de Miss Monde, je crois. Et alors, il était un petit peu anti-américain quand même. Hein. Si vous lisez bien Ernest le Rebelle, il y a des passages très anti-américains. Et alors, surtout sur la grandiloquence de l'américain, il y a une nouvelle qui est formidable, qui s'appelle L'Aventure en bretelles, je crois, où il raconte l'histoire d'un explorateur, mais un explorateur à la française, Falière. Alors il est très guindé, avec un petit veston très serré, etc., et qui ne fait pas d'esbrouf. Et il est confronté à deux explorateurs américains avec un matériel phénoménal qui essaye de la montrer à tout le monde. Et alors ils sont embêtés, ces explorateurs américains, parce qu'ils sont coincés. Il y a un groupe de pagayeurs qui les empêchent de progresser. Et ils n'arrivent pas à les décider. Ils leur donnent de l'argent, leur font des pacotis, ça marche pas du tout. Et alors lui, le petit français, là, avec son petit chapeau, ses petits lorgnons, tout ça, et Jacques Perret l'observe, et puis il dit, mais moi je vais partir. Alors les Américains se marrent, ils se foutent de lui, etc. Et le Perret l'observe, et quand il a fini tous ses préparatifs, le gars en question, il s'appelle Pastoret, se lève et puis va voir les nègres, Bosch, enfin B-O-S-C-H, qui sont là, et qui sont ses pagayeurs, et commence à leur réciter du Racine. Et à ce moment-là, ils sont impressionnés, et ils suivent. Alors et les Américains sont comme deux ronds de flanc, arrêtant de se moquer, de se maudit français. Donc, et c'est ça, c'était ça Perret, il était... il ne la ramenait pas, il n'en faisait pas des tonnes, mais il avait une action tout à fait efficace. Et alors, il est revenu ensuite dans ses foyers, il était journaliste. Il a fait beaucoup de reportages.
Il a couvert la guerre d'Espagne.
Ah, il a couvert la guerre d'Espagne.
On va en parler en deuxième partie.
Voilà, pour un journal, justement, avec Olivier Grimaldi, pour un journal qui s'appelait Le Journal. Alors, il raconte ça, il passe la frontière, évidemment, en douce, et il avait demandé un mot de recommandation à Maurice Pujot, l'Action française, pour le général Franco, directement. Et alors, il passe la frontière, et évidemment, il se fait prendre. Dans un, je sais pas si c'est pas à Salamanque, il se fait prendre par la police et qui lui demande mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, du journaliste français. Alors les gars du côté nationaliste se disent bah oula, journaliste français, c'est ça sent mauvais quoi.
Et vous travaillez là-bas.
Alors il demande mais vous travaillez pour quel journal? Alors il dit bah je viens travailler pour un journal qui s'appelle Le Journal.
Alors évidemment, c'est non, mais on vous demande
absolument
pas pour,
impossible.
On vous demande pour quel journal?
Voilà,
pour Le Journal.
C'est non, Le
monsieur,
Journal.
Pour quel journal? Pour
alors évidemment, il reste un ou deux jours en prison parce que ça paraît pas sérieux. Et puis finalement, il se rappelle qu'il a le mot, la recommandation de Maurice Pujot dans la poche. Il la sort et tout se décoince. Mais il a couvert le conflit, la guerre civile espagnole, une partie de la guerre civile espagnole. Ensuite, il est revenu en France. Il a eu des... Il a fait des expériences de retour à la terre. Alors il est allé s'installer en Touraine, mais alors lui il avait l'habitude de se coucher très très tard et de se lever aussi très très tard, ce qui mettait les paysans voisins dans un état d'étonnement permanent. Il débroussaillait son lopin de terre à coups de sabre d'abattis qu'il avait récupéré de Guyane. Enfin c'était n'importe quoi. Et ensuite, il est revenu en France, il s'est engagé dans les corps francs. Là, il y a gagné une médaille. Ensuite, il était prisonnier.
Mais la médaille
militaire.
Oui, pas n'importe quelle médaille.
La médaille militaire. Pour avoir, d'ailleurs, la citation est formidable, pour avoir transporté son lieutenant pendant 2 ou 3 kilomètres sur son dos, sous les feux ennemis, après avoir paisiblement, à l'entrée d'un pont, ajusté son mousqueton et abattu 3 ou 4 ennemis. Enfin, c'est un truc à la Perret, quoi. Et alors, il est pris dans la poche de Sedan au mois de mai 1940. Il est emprisonné, il va dans un camp en Allemagne et évidemment il essaie de s'évader. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il est repris à chaque fois et la quatrième fois sera la bonne.
Sera la bonne.
En 1942, il s'évade, il rejoint Paris et c'est la matière du livre Le Caporal Anglais, qui paraîtra en 1947,
magnifique,
qui rata de peu le Goncourt. Et qui raconte ses aventures dans le Stalag.
Dont l'adaptation cinématographique
a été faite par Jean Renoir.
Oui, est une bonne adaptation cinématographique.
Oui, enfin, on peut pas.
Toujours pareil.
Mais pareil, on peut pas.
C'est des adaptations.
Et alors, si vous voulez, il y a une à la fin du film, c'est Jean-Pierre Cassel qui joue le rôle du caporal. Jean-Pierre Cassel dit oui, en avant pour la revanche, on va les avoir, etc. Et c'était pas du tout dans l'esprit Perret. Et ce qui est amusant, c'est que ce film a été tourné en 62, il est sorti en 62, présenté à Cannes en 62. Manque de chance, le fils de Jacques Perret, Jean-Loup Perret, venait justement de se faire alpaguer et se retrouver à l'île de Ré, ce qui faisait une très mauvaise publicité pour le film. Jean Renoir a été furieux. Et chaque fois que, alors chaque fois que je vois des interviews de Jacques Perret,
Jean-Loup Perret a été mis en prison à l'époque du général pour fait de résistance à la liquidation de département français.
Oui, et comme disait Jacques Perret en parlant de Jacques Dupont, qui était un des grands résistants à l'Algérie française, il disait oui, il était condamné pour menée française en territoire français. Et alors, effectivement, bien sûr, ce film sort en 62 et tout le monde, enfin, Jean Renoir est très mécontent de cette publicité faite au film. Enfin, bref. Donc, il revient à Paris et il va faire un petit séjour dans le Dauphiné. pour faire du... Parce qu'il avait, entre autres choses, il avait passé un certain temps à couper du bois en Norvège, je crois, et, au Danemark, dans le Danemark. Et alors, il se dit, tiens, ben, je peux faire quelque chose un peu, puisque la police était un peu sur ses basques. Et alors, il va dans le Dauphiné, il passe quelque temps à couper du bois, évidemment, bon, c'est en plein hiver, il se coupe un orteil, crac, il repart, il va se soigner un peu, et puis finalement, il rentre dans les maquis de l'Ain, du colonel Roman Petit. Et là, il en sort la matière magnifique de Bande à part, qui est le prix interallié 51.
Grand, grand livre.
Et grand livre, surtout un grand livre de copains. Enfin, c'est magnifique. Bon, pour moi, très, très bon papier. Et alors, qui commence évidemment, qui tranche avec les récits de résistance, parce que il commence comme ceci, il dit, voilà, lorsqu'on me parle de résistance, je pense à un grand lit bien frais, où le soleil rentre à peine dans la chambre et le petit déjeuner m'attend. C'est très, très joli, c'est complètement iconoclaste. Mais alors voilà, il, en 51, il a le prix interallié, il est journaliste.
Bon, il sera condamné plusieurs fois pour offense au chef de l'État.
Alors, dans les années 60, évidemment, il s'engage pour la
GFCE. On va lui enlever sa médaille, enfin des trucs absolument.
On va enlever sa médaille.
Les gens civilisés ne font pas, mais enfin, nous étions voilà. Pas, nous étions déjà plus dans la France civilisée.
Voilà. Et donc, et alors c'est un des mystères, si vous voulez, quand on étudie un peu la vie de ce grand personnage, il y a des gens qui aiment Perret, mais qui ne peuvent pas se résoudre à ses positions politiques.
Moi j'aime tout dans Perret.
Moi j'aime tout dans Perret. C'est quand même un travers complètement moderne de dire, mais moi j'aime par exemple.
Non, mais rassurez-vous, j'aime beaucoup Albert Videlli. Je ne suis pas du tout sectaire, parce que par exemple, je n'aime pas les positions de Céline et je n'aime pas Céline. Donc oui, c'est voilà. Vous dire que je ne suis pas. Bon, par contre, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, enfin, il y a des tas d'auteurs que j'aime bien, puis je pense pas du tout comme moi. Mais là, il se trouve qu'avec Perret, non seulement je suis d'accord avec l'homme et je trouve l'œuvre épatante.
Et ça, ce qui est formidable, c'est si vous voulez, ce personnage qui est vraiment un personnage de Perret et qui, pour nous, enfin, les gens de notre obédience, notre loge, disons. Trouve que.
Je regrette de vous dire que je quitte le plateau.
Moi aussi. C'est une. Il rassemble en lui. Tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. C'est vraiment le talent, les positions, etc. Surtout, on parle de l'Algérie française, on parle ensuite du combat itinéraire, du combat religieux, etc. Et c'est vraiment, et puis avec cette facilité à exprimer les choses que l'on ressent, on n'arrive pas à exprimer, même au micro. Lorsqu'il parle, par exemple, de la réforme liturgique, et il a ces mots tout à fait formidables. Je le cherche, évidemment, je ne trouve pas.
Alors, vous cherchez, vous êtes en train de feuilleter un numéro de la revue Fidélitaire.
Oui, alors évidemment, j'ai pas dû prendre le bon.
Qui ne porte pas pour être l'application la plus progressiste en matière de catholicisme.
Ça, voilà.
Faut dire les choses comme elles sont, faut pas avoir peur, faut dire les choses comme elles sont.
Non, mais alors,
voilà. En attendant que vous trouviez la citation, peut-être que notre camarade
est... Non, mais...
voilà, vous l'avez, votre citation.
Ah, oui, voilà.
Après, Étienne va nous lire une petite citation.
Voilà, une petite citation de... Voilà. Entre autres signes avant-coureurs de la débâcle liturgique, celui-ci m'avait tout de suite frappé à la libération du pouce et de l'index après la consécration, comme on se fût débarrassé d'une vieille manie. Mais c'était un relâchement au sens propre, un signal discret mais précis, le petit commencement de l'ouverture au monde. On laissait tomber le souvenir tangible d'un mystère capital. Ces deux doigts, volontairement soudés, faisaient un maillon de la chaîne, et le maillon a sauté. Point de départ d'une avarie, et pas de panique dans l'équipage. Si le commandant ni les gabiers n'ont rien dit, c'est que la chose ne tirait pas à conséquence, ou qu'ils étaient eux-mêmes dans un coup de sabotage ou de barbarie. Cette cassure n'allait-elle pas livrer passage à toutes sortes de profanations. Nous avions compris dès l'enfance que ces deux doigts, comme scellés par la nouvelle alliance, ne voulaient plus rien saisir, plus rien effleurer qui fût de ce monde, au moins jusqu'aux ablutions. Et dès l'enfance, nous étions sensibles à l'effort léger qui compliquait un peu les manipulations rituelles pour mieux nous persuader que la transsubstantiation était accomplie. Et là encore, nous n'aurions plus droit d'être fidèles à l'enfance.
C'est moi, je trouve ça formidable.
C'est magnifique.
Absolument magnifique.
Bon.
Alors, il nous reste 5 minutes pour cette première partie. On va un peu dépasser. Hein. Je vais faire comme Beckett. Moi, je vais dépasser sur ma partie. Il n'y a pas de raison que je me gêne. Et je voudrais bien que notre camarade Grantaire, qui en meurt d'envie.
J'en meurs d'envie, d'autant que j'ai
l'a lu. Il a lu la semaine dernière au bureau et j'en étais absolument.
Votre petite plaquette que Daniel m'a prêtée. Ça m'a
pas pris trop longtemps.
Non, mais j'ai trouvé merveilleux et la présentation qu'en faisait Daniel Amiche tout à l'heure était vraiment très juste. C'est-à-dire que c'est rare de voir, parce que c'est une petite brochure, qui est d'une richesse, un peu ce que vous évoquiez à propos du travail de monsieur et madame Solari sur Tolkien, qui est d'une richesse extraordinaire. Et votre angle de vue, votre point de vue, vous regardez ça, à vue humaine, mais avec beaucoup de piquant, et puis vous vous effacez complètement derrière Jacques Perret. Et c'est pas la moindre des choses, parce qu'il y a tellement de gens qui se font mousser derrière des gens qui ne sont pas eux, et qui, c'est-à-dire, c'est comme si Étienne Grantaire faisait une biographie de je sais pas, de Louis XIV, c'est merveilleux. Hein? Et là, en l'occurrence, on retient, moi je dirais que j'ai retenu d'autant plus votre nom que vous faisiez très discret derrière la personnalité.
Bon, alors il nous la lit, cette citation, nous la lit ou pas, là?
Et, je tenais à rendre cet hommage. Voilà, c'est de la flagornerie pure et simple, merci. Un petit
on
peu
on n'a pas
quoi,
toute la vie, hein.
Merci, cher. Et donc, comme royaliste de naissance, absolument irréformable, moi je pourrais jamais arrêter cette maladie qui se propage. Je voudrais vous lire cette citation que vous avez relevée dans une préface à une édition de poche du Chevalier des Touches de Barbey de Révilly, et qui parle un peu de son appartenance quasi maladive, vous allez voir, à la cause du roi. Et à la cause de notre Seigneur. J'ai d'ailleurs inversé les choses. Enfin, le Seigneur me pardonnera. Ceux qui, de naissance, ont le cœur bleu ou le cœur chouan, sont difficiles à soigner. Ils vont jusqu'à chérir leur affection cardiaque, les uns la prenant pour vertu infuse et les autres la cultivant comme grâce du ciel. Ce n'est pas d'hier, en effet, que je porte en sous-vêtement la peau de bique frappée de l'écusson d'argent au cœur croisté de gueule. Confortable silice, imperméable aux agents atmosphériques. Il commence à dégager une odeur de fidélité puissamment défensive. Si l'adversaire est dialecticien, il nous suffira de montrer un signe en précisant bien qu'il s'agit du trône et de l'autel, pour le décourager complètement de s'attaquer au trésor de nos contradictions internes enfouies sous un tel massif de folklore crétacé. Moyennant quoi, nous abrégeons le face-à-face dans le calme et la dignité. Les économies ainsi faites, sur les dialogues de sourds se révélant d'un placement difficile, on pourra toujours en dilapider la cagnotte en se cassant la tirelire.
Oh, c'est extraordinaire.
Ce qui est drôle, c'est si vous voulez, c'est que cette préface, je les détouche, a été refusée par le livre de poche. Parce qu'en fait, Roger Nimier travaillait chez Gallimard et avait demandé à Perret, un certain nombre de copains, des préfaces. Et alors évidemment, Perret avait été en plein dans l'affaire algérienne, il ne s'agissait pas de le gratter sur ce point de vue-là. Donc il sème aussi sa préface de petites allusions anti-gaullistes. Enfin bon, là, bien.
C'était pas la première fois.
Et alors, évidemment, ça a été, après à la mort de Nimier, ça a été refusé. Ouais. Voilà. Et alors, quand il parle, il dit, oui, il suffira de dire, je suis pour le trône et l'autel, c'est ce qu'il a dit voilà. 20 ans plus tard sur le plateau de
Monsieur Pivot. Voilà. Pivot avait réuni plusieurs écrivains, dont des écrivains évidemment non seulement corrects, mais enfin, je veux dire, des écrivains que nous devrions tous ici vénérer.
Ah ben, il y a des écrivains qui ne sont que pour le whisky et la moleskine.
Ouais, exactement. Voilà. Et
Aspaï et Dorman. Voilà.
Ah, c'est possible, mais il y en avait d'autres. Il y avait des gens de gauche.
Oui, il y avait des gens de gauche.
Et donc, on a osé demander à Perret ce qu'il pensait. D'ailleurs, comme si Perret pensait, il n'aurait pas eu cette outrecuidance de se dire qu'il pensait. Il dit, je suis pour le trône et l'hôtel. Ça a créé une espèce de foutoir invraisemblable sur le plateau.
Messieurs, la première partie s'achève. Donc nous allons continuer quelques instants avec notre camarade Chaumeil, parce qu'il y a d'autres manifestations qui se préparent, notamment une le 15 janvier prochain sur Perret. Je souhaite qu'on en parle et que nos amis auditeurs puissent y aller. Et puis, nous avons une seconde partie. Oui, mais alors...
Non, j'aurais deux petites questions.
Ah bah on posera les questions. Donc après la retourne, on se retrouve tout de suite. « Voilà, nous chantons, comme on dit techniquement, cette petite musique, pour reprendre tout de suite la parole, parce que nous avons beaucoup de messages d'auditeurs auxquels il faudrait faire un sort, exceptionnellement parce que nous sommes le premier jour de l'année, et puis nous avons également notre camarade, ça va pas mieux, moi, Jean-Baptiste Chaumeil, qui a encore des petits détails à nous donner sur Perret. On va lui donner 5 minutes parce que nos autres invités sont arrivés. Alors, comme il y avait les messages peut-être qui s'adressaient à nos amis Grégory et Isabelle Solari, qui nous font l'amitié de rester encore quelques minutes avec nous y allons.
Alors, un auditeur, le Seigneur des Anneaux a été à l'origine des jeux de rôle qui ont déclenché chez les adolescents de nombreux syndromes psychiatriques et quelques suicides.
Allez-y, Grégory, oui, c'est vrai, oui.
À partir du moment où une œuvre est lancée dans le public, l'auteur n'a plus de prise sur cette œuvre. On peut pas empêcher des déviances. Le péché originel est partout. Et quand on a une œuvre entre les mains comme celle du Seigneur des Anneaux, avec une puissance imaginative si suggestive, d'une certaine manière, on ne peut pas empêcher ce genre de choses. Maintenant que les jeux de rôle, d'abord les jeux de rôle n'étaient pas voulus par Tolkien, il était le premier à déplorer ce genre de choses, comme il déplorait que ces personnages soient devenus des espèces d'épouvantails des campus américains dans les années 65, où on buvait de l'alcool, du LSD, etc., et on jouait à Frodon et Gandalf. Il détestait ce genre de choses, il l'a dit très fort. Je ne sais pas s'il a eu connaissance des jeux de rôle, s'il y en a eu à son époque et de son vivant, puisqu'il est mort en 73. Je ne pense pas.
Mais il y en a aujourd'hui, c'est vrai,
mais c'est une...
C'est pas au motif que des gens sont écrasés par des voitures, on va pas supprimer l'industrie automobile dans le monde entier, quand même. Bon, faut quand même voir les choses en face.
Vous en parlez des sectes absolument effrayantes.
Tout à fait, tout à fait. Encore d'autres questions.
Oui, j'ai deux remarques. Comment pouvez-vous dire que Tolkien ne savait pas où il allait en écrivant Le Seigneur des Anneaux, commencé en 1939, alors qu'il travaillait sur son univers depuis les années 20, déjà les ébauches d'elfiques, première légende, etc. Et je vous donne
Grégory,
une deuxième remarque que vous voulez.
Je vous réponds tout de suite.
Oui.
Il faut distinguer, Tolkien écrivait pour lui des ébauches de contes, de poésie, de ce qu'il appelait la mythologie de la Terre du Milieu. Si son éditeur, George Allen Unwin, ne lui avait pas demandé de donner une suite à Bilbo le Hobbit,
il n'y aurait pas eu
de Seigneur des Anneaux. Il y aurait eu autre chose, peut-être. Quelque chose de fragmentaire, de plus petit, comme des essais sur Beowulf ou Bilbo. Maintenant, il a en effet utilisé toutes ses ébauches dans Le Seigneur des Anneaux. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il savait, en commençant la rédaction de la suite de Bilbo, qui n'était pas la suite, qu'il savait déjà quelle serait la dernière ligne de son livre. Ouais. Ça non, et il l'a même dit très clairement dans ses lettres.
Nous qui sommes des journalistes avec grand air, et qui n'avons pas de loin pas le talent ni de Tolkien, ni de Perret, ni de...
Parlez pour vous.
Quand on commence un papier, qui doit être faire 3-4 feuillets, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Je crois que c'est le principe de toute création artistique.
Oui,
on ne sait pas vraiment comment ça s'achève. Si d'aventure, ça peut être achevé un jour.
Et puis cet auditeur a également étudié la correspondance de Tolkien, plus l'ensemble de son œuvre. Le message christique du Seigneur des Anneaux y est très clairement énoncé, ainsi que son hostilité farouche au modernisme. Oui. A mentionné tout particulièrement son amour des arbres.
Amour des arbres, amour de la création, amour de la nature. Absolument.
Bravo, cher auditeur. Donc les remarques qu'on fait sont pas pour vous critiquer, hein, c'est simplement comme ça pour...
Pouvez-vous redonner les coordonnées sur le livre des Maquis?
Qui est Maquis?
Non, l'auditeur fait allusion...
Ah, le Bon à part.
C'est pas un documentaire sur les Maquis,
c'est un roman.
C'est un roman, en fait, c'est un récit. Les noms sont pas les bons, mais enfin, c'est Bande à part de Jacques Perret, publié aux éditions Gallimard, et qui devrait être disponible aux éditions Folio. On peut le trouver aussi en livre de poche. C'est bande à part. Voilà.
J'ai un auditeur, Les Anglicans de Suzanne Martineau, édition Brépol, 1996. Dans ce livre, il est bien dit que les Anglicans sont plus nombreux que les catholiques. Peut-être avez-vous confondu avec les Pays-Bas, qui eux sont majoritairement catholiques.
Non, je maintiens. Moi, je n'ai pas, c'est les statistiques que j'ai eues il y a 6 mois ou un an. C'est les statistiques officielles, d'ailleurs, non. Qu'il y a aujourd'hui en Angleterre plus de catholiques que d'Anglicans. Je parle des Anglicans de la High Church.
Et puis une télécopie qui nous vient. Nous, on est de bons parents puisque l'on met dès le matin nos enfants devant les dessins animés de TF1.
Ah ben voilà.
C'est triste.
Oui, c'est triste. Oui, c'est triste.
Parce que les dessins animés.
Enfin, que ce soit TF1 ou Antenne 2, d'ailleurs, je crois que là-dessus, il faut être. Écuménique et dialoguant. C'est pareil, mauvais.
C'est
mauvais caca. Bon, voilà. Très bien. Donc, alors, Grégory et Isabelle, merci beaucoup. Vous repartez quand?
Le 3 janvier.
Ah, le 3 janvier. Bah, peut-être qu'on pourra se voir alors, en dehors du studio, si vous voulez bien. Je vous donnerai un petit coup de téléphone demain matin.
D'accord.
Manger une petite croûte, casser une petite croûte ensemble. Parler un petit peu de nos métiers respectifs. Alors, je vais demander, pendant que vous allez être obligé de libérer le plateau, qui c'est qui m'a pris le Tolkien, là? Quelqu'un m'a pris le... Ah non, il est là, d'accord. Okay. Attention. Non, parce qu'on dit ça. Bon. Alors, on va demander, on profite de ce petit moment d'intercession pour demander à Dominique Tasso, qui nous fait l'amitié de venir se mettre juste en face de moi. Et on fait signe à l'autre invité qui se cache là-bas dans la technique de bien vouloir entrer également. Il s'agit de Monsieur Olivier Grimaldi qui va venir s'asseoir ici à ma droite, à la droite du Seigneur. Venez mon bon Olivier, asseyez-vous. Alors, chers camarades Jourmeil, auriez-vous la bonté de nous donner encore quelques informations sur... ce bon Jacques Perret.
Alors, quelques petites informations, puisque cette année a été un petit peu, entre guillemets, on a fait un peu ce qu'on a pu avec quelques amis, comme Georges Lafly, comme l'équipe de Reconquête. C'était un peu l'année Perret, puisque c'était le 100e anniversaire de sa naissance. Il est né en septembre 1902. Et 10e anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort en décembre 1992.
C'est pas 1901, sa date de naissance, c'est 1901.
1901, oui. Pardon. Oui.
Je sais pas, vous avez un problème avec le 2 et le 1. Regardez, là. 1, là, 2.
Hein, ah, voilà. 2. 1, 2. 2 mains, 2 yeux.
Je montre, hein, voilà. 2 yeux, 2 oreilles. Voilà. Oreilles.
Ah, oui. Et donc, il y a eu quelques publications, et notamment une étude assez fournie de l'un des meilleurs spécialistes de Perret, qui s'appelle Georges Lafly.
Oui, bien sûr.
Et qui a fait des papiers dans la revue Certitude de septembre, je crois, 2001.
C'était M. l'abbé de Tannoirne, ça, certainement.
De l'abbé de Tannoirne. Il y a eu des papiers aussi dans Fidélitaire, dans un journaliste qui s'appelle Restauration nationale. Il y a même eu un papier, la réédition d'un papier dans un journal qui s'appelle La Feuille d'Information Légitimiste.
Ah, bah, il est gentil, c'était aussi.
Oui, c'est repris d'un article de 1993 où on apprend justement la décoration de Jacques Perret par
Alphonse II, oui, le prince Alphonse II d'Anjou et Cadix l'avait voilà. Fait chevalier expliquant Saint-Michel.
Il est effectivement Jacques Perret était légitimiste. Bon. Et les derniers, il y a eu un papier dans Les Épées, journal d'Action française. Alors les derniers papiers sont sortis dans l'Action française.
Parce que Étroyiste, c'est bien, mais être légitimiste, c'est mieux.
Alors justement, des frères légitimistes, orléanistes et frères séparés. L'Action française 2000, dans le numéro du 19 décembre 2002, il y a eu un petit dossier sur Jacques Perret. Et un dossier assez conséquent dans la revue Reconquête, publié par le centre Charlier, numéro de décembre 2002, avec des contributions assez intéressantes.
Notamment une de Yann Bally, je crois, qui a fait.
Yann Bally, alors qui est le promoteur de cette, enfin le concepteur de ce dossier et qui travaille au centre Charlier, qui a fait un papier assez puissant, assez long, assez exhaustif sur Perret, et des témoignages tout à fait inédits d'Olivier Serre, qui est un ami avocat, sur Perret dans les années d'Algérie française.
Bon numéro. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce numéro de Reconquête?
Ce numéro, on peut se le procurer contre 5 euros franco à, justement,
franco.
À 70 boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement, 5 euros franco. Et il y a aussi, il me fallait parler de cette petite soirée qui aura lieu le 15 janvier, mercredi 15 janvier 2003.
Ah, je pourrais peut-être y aller, mais j'aurais pas radio ce jour-là, dis-nous. À quelle heure? 19h30?
Oui, surtout qu'il y a un petit coup à boire.
Oh, c'est bon ça.
À 19h30 précise, une petite soirée d'hommage à Perret avec une exposition de différents éléments, de manuscrits, de photos,
alors,
etc.
Le 15, donc ce sera le 15.
Mercredi 15 janvier 2003.
On est en direct, là, comme voilà. En direct live, hein, comme on dit à la télévision, voilà. Quand même. Bon.
À 19h30 précise.
Alors au centre Charlier, c'est ça?
Centre Charlier, 70.
Oui.
Boulevard Saint-Germain, ce métro Maubert Mutualité.
D'accord.
Dans le 5e arrondissement. Et je crois qu'il y a une petite participation aux frais pour le liquide.
Oui.
Et puis voilà. Donc
on peut apporter son manger quand même. Non,
voilà, exactement.
On peut payer en liquide.
Exactement.
Alors dernier petit point.
Alors votre brochure à vous, là. Votre brochure, voilà, à vous, là.
Merci d'y penser.
Petit hommage pour un grand. Ami.
Non, ça c'est la mienne. Voilà, très
il
bien.
Est pas
alors,
prêteur.
Non, la fourmi n'est point prêteuse. C'est là son moindre défaut.
Alors donc cette petite plaquette de 48 pages.
Alors c'est 8 euros. C'est voilà. 8 euros.
8 euros. 16 rue Brézin dans le 14e. On voit 8 euros franco, encore une fois.
Alors donc c'est à l'ordre de Jean-Baptiste Chaumeil. Et j'ai 16 rue Brézin.
B-R-E-Z-I-N.
75 014 Paris. Vous envoyez 8 euros et vous avez en retour une brochure formidable sur Jacques Perret.
Voilà, et un petit dossier aussi de la revue Réaction que je diffuse, 15 euros, par contre, à la même adresse.
C'est le spécial,
c'est un spécial Perret de 93 qui est tout à fait intéressant, avec des contributions de Lafly, Huguenin, Robichès, Vendrome, Jean Raspail, etc.
Bah écoutez, puis si vous n'avez pas le temps de noter tout ça, bah vous venez le 15 janvier à 19h30 au Charlier, voilà, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, et vous aurez, bah vous aurez tout ça. Voilà, vous aurez tout ça.
Et juste préciser aussi que Perret n'était pas non plus on peut le laisser croire avec nos petites billevesées, mais c'est pas un plaisantin.
Cet homme n'était pas un démocrate, donc ce n'était pas un plaisantin. Parce que la démocratie est quand même une grosse plaisanterie. C'est des choses comme elles sont. Bon, alors voilà.
Alors ceci étant dit, oui, Jean-Baptiste. Puisque j'ai une autre casquette, que je m'occupe un petit peu du cœur en joie Saint-Denis, je vais
alors donner une petite
annonce. D'abord, comme tous les premiers mercredis du mois, nous avons rendez-vous chez la mère agitée, oui. 21 rue Campagne Première, qui
Paris 14e.
Dans le 14e. Toujours, tout se fait dans le 14e. C'est l'arrondissement le plus près de l'Auvergne, donc c'est normal. Et donc, nous faisons la rentrée à ce moment-là, la rentrée des rois. Le 19 janvier, on pourra nous trouver aussi sur la place de la Concorde pour une messe à 15h, messe pour Louis XVI. Suivi d'une retraite en flambeau. Et le lundi 20 au soir, nous serons chez Monsieur Serre, dans
le bar des Templiers.
Voilà. Pour la veillée. Il y a le bon goût de nous abreuver.
Il est bien brave. Et enfin bon.
Pardon ?
Gratuitement.
Gratuitement.
Et de toute façon.
Gratuitement pour, voilà. Pour les chanteurs.
Pour les chanteurs, oui. Vous le sentez avant ou après ?
C'est pendant.
Pendant, voilà. D'accord.
Mais
c'est mieux quand vous le sentez pendant, je dois dire.
C'est. On est chez M. Serre de 9h du soir à 1h du matin. Et il nous sert du champagne et on n'a jamais mal à la tête avec son champagne. C'est vraiment, c'est un monsieur très gentil.
C'est ce qu'on appelle les grâces d'État.
Et allez voir un peu sa collection de petites sculptures de
Jeanne d'Arc.
C'est extraordinaire. C'est la plus grande, je crois, collection joannique privée de France.
Où se trouve le bar des Templiers?
Alors c'est un bar qui se trouve entre la mairie de Paris. Et la Tour Saint-Jacques.
Tour Saint-Jacques, c'est tout début de la rue de Rivoli, je pense, non? C'est au 23 ou je sais pas, c'est début de la rue de Rivoli, il me semble. C'est le début de la rue de Rivoli, là, il me semble. Oui. En fait, donc entre l'hôtel de ville, et la Tour Saint-Jacques.
Voilà.
Alors, ça peut être le boulevard ou la.
Non, c'est rue de Rivoli,
C'est après la Saint-Martin.
C'est tout à fait le.
Non, après le BHV.
Bon, messieurs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Nous avons des choses importantes à dire puisque nous avons le bonheur de recevoir dans ce studio notre ami Dominique Tassot, qui est agriculteur et président du Centre d'études et de prospectives sur la science et qui organise, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer et qui vient nous entretenir ce soir donc de la parution de la dernière livraison de la revue Le CEP, où il y a toujours encore beaucoup beaucoup de bonnes choses. Et nous parlions tout à l'heure de Beowulf à propos de Tolkien, évidemment, qui a fait un texte là-dessus, et on en parle aussi dans ce numéro puisque nous allons faire la suite de ce que nous avions fait au mois d'août quand nous avions reçu cette émission avec Zabi Max, je ne sais pas si vous en souvenez, vous vous souvenez de ça. Et on avait fait la première partie des dinosaures, de la survivance des dinosaures. Chose très intéressante. Et puis nous recevons aussi, nous allons commencer d'ailleurs par notre camarade Olivier Grimaldi. Alors que c'est la première fois que je vous reçois, vous. Vous avez déjà reçu?
C'est la première fois.
Alors il faut que vous parliez surtout. Voilà, vous n'avez pas besoin de lunettes pour parler dans le micro. Si vous essuyez vos lunettes, vous penchez la tête, on ne vous entendra pas, mon cher Olivier.
Écoutez, d'abord je vous remercie de me recevoir.
Attends, je dis qui vous êtes, parce que sans quoi les gens vont comprendre. Vous êtes président du cercle franco-hispanique.
Du cercle franco-hispanique, oui. Pas du cercle franco-islamique.
Non, franco-hispanique, je précise.
Non, je vous remercie de me recevoir ce soir, en cette première journée de l'année. Vous êtes vraiment très très gentil. Je vous présente également mes meilleurs vœux, ainsi qu'aux auditeurs. J'écoute régulièrement votre émission Je sais qu'elle peut être très intellectuelle comme très militante.
Oui, oui, on peut. Oui, moi je suis un militant intellectuel.
Donc moi je suis plutôt un militant. Voilà.
Mais on va vous faire parler quand même. On va vous faire parler parce que, d'abord de présenter le cercle franco-hispanique, c'est toujours intéressant d'en parler. Puis également, je voulais que vous fassiez, pour un petit exposé, mais que nous discutions un petit peu sur ce qui se passe actuellement en Espagne. Beaucoup de choses m'ont personnellement choqué. Et le thème de cette partie avec vous, c'est Franco et l'Espagne contemporaine. Parce qu'il semble que l'Espagne contemporaine d'aujourd'hui soit quand même d'une ingratitude rare à l'endroit de celui qui a quand même remis ce pays sur les rails. Alors vous me direz, là on s'occupe d'une chose qui n'intéresse pas tellement les Français, puisqu'après tout c'est des histoires d'Espagnols. Bon, moi je dirais pas ça, je dirais que s'il n'y avait pas eu le général Franco, je pense qu'on aurait eu les cocos, tout bêtement en France, c'était clair, il y a déjà le Front Populaire, il manquait plus grand chose. Et puis, d'autres événements historiques nous ont débarrassés du Front Populaire, et s'il n'y avait pas eu Franco, je pense qu'on aurait peut-être eu aussi les amis d'Adolphe pour un bon nombre de siècles. Donc je pense à ces deux titres particuliers. Nous devons être reconnaissants au général Franco, nous Français. Puis d'ailleurs, il s'appelle Franco, c'est déjà quand même... c'est beau, quoi. Hein?
Je vais me présenter rapidement.
Un petit peu ce que c'est donc, que le cercle franco-hispanique.
Le cercle franco-hispanique est donc une association d'amitié franco-espagnole qui a à l'origine pour but de maintenir en France la mémoire de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Falange, de l'ancien chef de l'État, tout cela dans la fidélité aux principes du 18 juillet 1936, c'est-à-dire les principes qui ont permis le soulèvement national, l'unité des forces vives de la nation, qu'elles soient monarchistes ou républicaines. Le CERF franco-hispanique a été créé en 83-84, un an après le putsch, enfin le pseudo-putsch du lieutenant-colonel Terrero.
Le 16F, comme on dit là-bas, c'est ça?
Du 23F, qui a été en fait un énorme coup monté, comme on le sait maintenant, par la couronne.
On a des preuves de ça, parce que c'est faut pas accuser, on va avoir des histoires avec l'ambassade. Faut nous donner des explications.
Un des principaux fomenteurs de cette affaire était le chef de la maison militaire du roi, le général Armada. Ce général était comme
pas du tout invisible, pas du tout invisible.
Un homme d'honneur qui a écrit ses mémoires. Et il a laissé un chapitre blanc dans son livre sur cette affaire. Et il a écopé, comme tous les officiers supérieurs, de quelques années de prison. Et il en a fait, je crois, 5 ou 6. Et il a signé, comme tous les officiers, sauf 2, la reconnaissance de la Constitution de 78. Et puis l'affaire s'est arrêtée là, on n'en a plus jamais entendu parler. Les deux seuls qui avaient refusé à l'époque, c'était bien sûr le lieutenant-colonel Terrero et puis Milan del Bosch, qui a bénéficié d'une grâce médicale et qui est mort maintenant.
Et Terrero, qu'est-ce qu'il est devenu alors, lui, Terrero?
Le lieutenant-colonel Terrero est un homme maintenant âgé, d'âge. Il est à la retraite. Et ma foi, il participe au combat national à travers des conférences, des écrits. Il est resté très très militant et il était, comme peu d'officiers supérieurs, il y a 3 semaines à la basilique de la vallée de Los Caídos pour la messe en se souvenir qui est faite chaque année par la Fondation Nationale Francisco Franco. Mais il n'a plus d'activité proprement politique. C'est parce qu'il en a eu. Il avait même créé un parti politique quand il était en prison. Mais maintenant, il est à nouveau derrière Blas Piñar, il s'est rangé. Et puis, c'est un militaire, c'est pas un homme politique. Je crois qu'en politique, il faut pas toujours faire confiance aux militaires.
Oui, voilà. Enfin, bon, on a eu des exemples assez désastreux dans ce pays, d'ailleurs. Et je ne songe pas seulement à Napoléon.
Donc ce cercle, il a été créé, en fait, il a été créé après cette affaire-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu tout de même qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait trahison. Tout de moins en France, parce que c'était assez étonnant de voir l'évolution de l'Espagne après la mort de Franco en 75, et puisqu'elle était devenue 8 ans après, Il y a eu un virage total pendant ces 8 ans qui s'est opéré.
C'est ce qu'on appelle dans les médias la transition démocratique.
Qui n'aurait pas pu se faire si il n'y avait pas eu à la base une trahison au principe du mouvement sur lequel tout le monde s'était appuyé en 1974, 1975 et 1976. Et 1977, au moment de la légalisation des partis politiques, on sait que le Parti communiste ne devait pas être légalisé. Tout le monde en était d'accord, sauf évidemment la communauté économique européenne qui posait cette condition pour permettre à l'Espagne de rentrer dans le marché commun.
C'est incroyable. Quand on réfléchit, c'est vraiment passionnant ce que vous nous dites.
Les gens qui ont trahi ne sont pas n'importe qui. C'était tout de même le secrétaire général du Movimiento Nacional, c'est-à-dire le secrétaire général de la Falange, qui avait prêté serment devant Dieu et les Cortés, c'est-à-dire le Parlement, au principe du mouvement. La constitution espagnole qu'a léguée Franco avait été faite pour la monarchie. C'était pas une constitution fasciste ou je sais quoi. Elle avait été refaite, réformée en 66 parce que on préparait comme on disait à l'époque, la réinstauration du roi. Et comme le disait Franco, tout était bien ficelé. Et le testament de Franco le dit. Je vous demande maintenant d'être fidèle au roi Juan Carlos Ier, comme vous l'avez été à moi-même, dans les principes du mouvement, etc. etc., dans une Espagne catholique. Bon, on sait tout, je pense, ce qu'il en est advenu. L'Espagne n'est plus un pays catholique.
Movimiento, no, Movida, oui.
Voilà, exactement, Movida, oui. Le principal ennemi, en fait, de l'Espagne nationale, de l'Espagne traditionnelle, de l'Espagne catholique, ça a été l'Église elle-même, malheureusement. Et toute cette affaire de transition a commencé bien avant la mort de Franco, on en est tous d'accord. Quand toute l'Europe s'est soulevée, quand toute l'Europe gauchiste et communiste s'est soulevée au moment des procès de Burgos, qui avait condamné quelques terroristes de l'État, il faut savoir que sur les 16 condamnés, il y avait quand même 2 prêtres. Que le Parti communiste espagnol, à l'époque encore en exil, était officiellement associé à différents mouvements catholiques, que ce soit les jeunesses ouvrières catholiques, que ce soit les mouvements de paix, des évêques ont soutenu toute cette affaire-là. Et tout cela a été écrit dans des brochures clandestines et non clandestines en France. Donc ce mouvement était très 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 important. L'Église a eu un immense rôle dans la transition. Il faut bien reconnaître qu'il y a eu un virage encore plus rapide après Vatican II, c'est-à-dire après le Concile, et donc à partir, non pas 1962, parce que c'est un peu tôt, mais à partir de 1965, où là l'Église d'Espagne a été contre l'Espagne catholique, et Franco s'est rendu compte de tout ça, il a dû jouer avec ça. Et malheureusement, malgré des changements de gouvernement où il a rappelé des phalangistes qui avaient été écartés, tout ça, l'affaire était jouée. On allait vers une démocratisation, pourquoi pas, encore une fois, mais avec des principes inamovibles. Celle d'un pays catholique, celle d'un pays qui ne pouvait réinstaurer des partis politiques, c'était pas possible. À partir du moment où on voulait continuer à voir ce pays progresser, il faut quand même rappeler qu'en 1975, l'Espagne était la 9e puissance industrielle du monde. Aujourd'hui, c'est un nombre à 2 chiffres. Je ne sais même pas à quelle place elle tient, peut-être.
Vous savez, Olivier, dans quelle estime, en règle générale, les Capétiens, les Bourbons en particulier, mais enfin, des Bourbons, il y en a un peu de toutes sortes. Bien. Il se trouve que Alphonse XIII, qui était sans doute un roi très, très francophile et très francophone, enfin tout ce qu'on veut, a quand même laissé l'Espagne dans un état qui était quand même un état pas très 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 développé dans le concert des nations européennes de l'époque, et que le travail de Franco après la guerre terrible, la guerre civile terrible qui a opposé les deux Espagnes, comme les deux France se sont opposées aussi en d'autres siècles, ou continuent encore à s'opposer d'ailleurs, enfin la vraie, je veux dire la vraie puis la fausse, quoi. Bon, le travail qui a été fait est absolument prodigieux. Mais si aujourd'hui, bon, l'Espagne est un pays relativement riche, puissant économiquement, avec un niveau de vie qui a profondément augmenté, c'est aussi grâce au travail du ce qu'on appelait avec pudeur en Espagne le régime antérieur.
C'est bien évident, mais c'est pour ça qu'on parlait de réinstauration de la monarchie, c'est très important. Il faut tout de même rappeler qu'Alphonse XIII est parti de lui-même, que ces élections de 1931 avaient été gagnées par les monarchistes, que simplement... Il a eu peur, comme d'autres rois d'ailleurs. Il a prétendu ne pas vouloir faire verser le sang, mais on sait très bien qu'il n'y aurait pas eu de sang versé. Il y aurait eu quelques types emprisonnés, terminés. Deux charges de cavalerie dans Madrid, ça fait pas un massacre, ça maintient un régime. Donc il a quitté l'Espagne. Le comte de Barcelone, ce brave comte de Barcelone, a toujours comploté contre Franco. Pendant la guerre civile également. Donc je vois pas comment on pourrait être d'accord effectivement avec ce choix. Moi je pense que Franco ne s'intéressait pas particulièrement à ces choses de légitimité et de choix de prince. Il en avait à ma connaissance trois. Au choix.
Oui, il avait trois fers au feu. C'est un Galicien, donc il faut savoir qu'en Espagne, un Galicien, c'est la personne, quand vous le rencontrez dans un escalier, vous ne savez pas s'il monte ou s'il descend. Hein. Donc c'est quelqu'un quand même de très spécial.
Le comte de Barcelone a été très agressif, a talonné Franco dès les années 47. Bon. Il a pas pu faire autrement. Finalement, le comte de Barcelone a accepté que son fils vienne faire des études à Madrid. Le comte de Barcelone était à l'époque à Estoril au Portugal. Bon, on connaît la suite. Bon sang ne ment pas ou mauvais sang ne ment pas. Donc, il est resté le fils de son père. Est-ce qu'on doit être fidèle à son père ou être fidèle à Dieu? Quand je dis à Dieu, c'est au regard des deux serments prêtés par Juan Carlos. Moi, je sais pas. Pas d'opinion là-dessus, parce que je pense que...
Si, vous en avez une, mais vous la dites pas.
Peut-on trahir Dieu pour son père? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est quand même bon. Mais il est certain que l'affaire a été ficelée, et on le sait très bien par l'épouse du général Franco, par Carmen Franco, qui a tout fait à une certaine époque, au moment du mariage du duc d'Anjouet de Cadix, pour essayer de modifier la donne en faveur d'un autre près d'Alphonse, qui était effectivement, à l'époque, on l'appelait le prince bleu, parce qu'il était tout à fait en harmonie avec les principes de l'Espagne catholique traditionnelle et nationale. Nous en avons nous-mêmes, en tant que Français, bien profité de son vivant.
Oui, c'est vrai. Alors donc, la raison pour laquelle notre camarade Grimaldi est là, je donne quand même l'adresse du cercle franco-hispanique. Vous m'arrêtez si je parle sous votre contrôle, hein, parce que des fois, avec mes petits doigts, je peux me tromper. C'est boîte postale 337-16. Boîte postale 337-16, 75-767, Paris, CEDEX 16.
Oui. J'ai un auditeur qui nous dit, vous parlez entre invités, j'ignore tout de l'Espagne, soyez plus clair.
On ne peut pas refaire cette histoire de chereau du truc.
Il n'y a plus de Pyrénées depuis très longtemps.
Voilà, on fait un petit, notre camarade Grimaldi est en train de faire un petit exposé sur ce qui s'est passé en Espagne. Moi, je l'ai fait venir parce que je m'interrogeais beaucoup sur Franco, enfin l'héritage de Franco et l'Espagne contemporaine, à ce que j'ai vu depuis quelques semaines ou quelques mois se développer en Espagne. On a vu des choses quand même absolument
invraisemblables. Oui, tout à fait. Il y a eu trois périodes. Pour vraiment faire bref, il y a eu trois périodes. Il y a eu 1975, 1982-86, où durant ces années-là, la démocratie s'est attaquée à casser les structures issues du mouvement national, principalement l'armée. L'armée a été cassée dans cette période-là. D'ailleurs, aujourd'hui, l'armée espagnole n'a plus d'hommes. Il lui manque à ce jour, par exemple, 12 000 hommes pour ses régiments parachutistes. Elle embauche des étrangers. Donc, si vous connaissez d'ailleurs des gens qui souhaitent s'engager dans l'armée, dans les parachutistes, il y a des places en Espagne, c'est vrai, c'est tout à fait sérieux, c'est tout à fait bien payé aussi. La deuxième période, ça a été la période socialiste, puisque l'Espagne a été gouvernée par les socialistes à partir de 1982. Et ça s'est assez bien passé à ce moment-là, je veux dire pour les héritiers, disons, du franquisme, parce que il n'y a pas eu de grands bouleversements, il n'y a pas eu de, c'était une page tournée, et puis on n'en parlait plus. Et effectivement, depuis maintenant quelques mois,
ouais. Un an,
il y a une espèce de furie. En plus, non justifiée. Alors, elle pourrait être justifiée par des problèmes politiques qui nous concernent en France et partout en Europe, l'immigration, etc. Mais à la limite, attaquer des fondations culturelles, interdire des journaux, modifier des lois pour qu'un tel ne touche plus de subsides ou de subventions, c'est assez ahurissant. Et bien entendu, c'est fait sous un régime dit de droite, puisque le Parti populaire a la majorité absolue au Cortés.
Alors, c'est fait sous un régime de droite. L'actuel premier ministre Aznar est quand même un enfant du franquisme, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont.
Aznar a été membre du Front de la Jeunesse. Son père était un ami personnel de José Antonio. Ça a été un des plus grands phalangistes.
Bon. Deuxièmement, c'est une monarchie. C'est une monarchie dont le roi doit son trône non pas à sa naissance, puisque là on est vraiment en dehors de toute légitimité dynastique ou de toute légalité dynastique, c'est le fait du caudillo, c'est lui qui a décidé qu'on prendrait celui-là et pas son père, ou pas son cousin aîné, ou pas son oncle, c'est lui qu'on a pris. Bon. Et il se trouve que c'est la convergence de ce premier ministre de droite issu, qui a sucé le lait dans la mamelle du franquisme, et de ce roi qui doit son trône, enfin de sa majesté, qui doit son trône au chef de l'État du régime antérieur, que l'on voit, c'est dans ce contexte que l'on voit se développer les choses les plus invraisemblables de contre Franco. On enlève, il avait une statue à El Ferrero Ferreol, je me rappelle quand même que c'était un Galicien, El Ferreol, il est né à El Ferreol, il y avait une statue équestre du Caudillo sur un beau cheval de bronze, c'était très très bien, c'était la seule qui restait, il y en a encore une à Madrid, mais qui est pas
toujours content. Il y en a à Madrid, il y en a à Santander.
El Ferrol, on l'a enlevé.
On l'a enlevé et il y a eu tout de même beaucoup de protestations dans cette affaire-là. Il ne faut pas oublier que ces statues n'ont jamais été imposées par le régime. Ce sont des statues qui ont été payées par la population.
Oui, bien sûr. Bon. Et puis même, où est le problème? Qu'est-ce qu'il a fait de mal à l'Espagne franco? Il ne faut pas exagérer quand même. Bon. Alors, on enlève la statue. Et là, on pouf, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Marée noire, c'est automatique, hein. Ça, on rigole pas, il faut pas rigoler avec le bon Dieu. Ça, des trucs comme ça, c'est automatique. Le machin se casse, et hop, la Galice, elle est dans le cambouis.
Dans la semaine.
Bon.
Alors, en plus, il faut bien remarquer que sur la...
Mais parlez, vous êtes
Lénine. Lorsque on a déboulonné la statue de Lénine,
Où ça, parce qu'on avait, là, on avait beaucoup des statues de Lénine.
À Moscou, la
on
fameuse.
On n'a pas encore fini de déboulonner.
Il ne s'est rien passé. Et la rhématologie n'a pas sanctionné du tout.
Absolument pas. Non. Comme quoi, toutes les statues ne se valent pas.
Voilà. Il n'y a pas égalité.
Alors,
on
fait une exposition, qui s'est ouverte récemment, je pense, il y a trois ou quatre mois. C'était au Retiro.
C'est une exposition qui a démarré au mois de septembre, qui n'est pas terminée. Vous pouvez y aller. Les jardins du Retiro, d'abord, c'est très joli à visiter. C'est un très beau jardin. C'est une exposition donc, qui a été inaugurée par le roi d'Espagne. C'est très important ça, que le roi d'Espagne ait inauguré cette exposition, puisque c'est une exposition en hommage. C'est pas une exposition en hommage à la République, à la Seconde République espagnole. C'est une exposition en hommage aux anarchistes.
Oui, aux anarchistes.
Aux communistes les plus extrêmes et surtout aux exilés. Or, aux exilés qui sont revenus depuis. Alors c'est important parce que tout le monde sait là-bas que tous les gens qui avaient fui, tous les républicains, enfin pas tous, mais ceux qui ont fui l'Espagne, comme nous, en 1940, on est allé sur les routes parce que, bon, c'est la même chose. Tous ces gens sont revenus parce qu'il y a eu une amnistie totale après la guerre, sauf pour les crimes de sang. Donc tous ceux qui sont restés en exil jusqu'à la mort de Franco, soit c'était des criminels, alors nous on en a eu en France, on en a hérité beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens du Midi, du Languedoc en savent quelque chose, Ou alors, c'était des gens très très riches, des grands bourgeois, qui pour la plupart se sont installés au Mexique. Et d'ailleurs, cette exposition est financée par des gens, de grands bourgeois espagnols, qui maintenant expliquent que c'était bon.
Mais, donc c'est une exposition d'hommage aux rouges, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées. Nous disons les communistes, pour que ça fasse clair, mais en Espagne, nous disent los rojos, les rouges. Quand on dit les rouges, c'est l'abomination de la désolation. Enfin, pour moi, avec les Espagnols que je fréquente.
Non, mais je crois qu'on peut rappeler aussi rouges à cause du sang des chrétiens que ces gens-là ont versé abondamment.
Vous savez, bon,
et puisque vous dites qu'un certain nombre, ce qui est évidemment la pure vérité, de grands bourgeois sont installés au Mexique. Le Mexique avait fait son petit nettoyage avant avec les pauvres cristeros.
Tout à fait.
Parenthèse totalement oubliée dans tous les manuels d'histoire probablement du monde, où ce sont, mais alors, les plus humbles des plus humbles qui se sont révoltés contre l'état maçonnique mexicain, et où ça a été un massacre et un bain de sang incroyable. À telle enseigne qu'on envoie, je termine sur cette parenthèse,
merci.
Et ça fait longtemps que je voulais le dire, l'évoquer, on voit aujourd'hui une résurgence d'une certaine résistance au Chiapas, avec le fameux sous-commandant Marcos. Je ne vais pas en faire l'éloge, mais il ne faut pas prendre le sous-commandant Marcos pour seulement un agité gauchiste. Il a dans sa famille, du côté de sa maman, des cristeros qui sont morts pour la Sainte Foi. Et c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Et la révolte du Chiapas est beaucoup plus compliquée qu'on ne
alors,
pense.
Alors, on fera une émission sur le Chiapas, si vous voulez bien, un autre jour, mais pour l'instant...
Voilà,
alors,
je voulais quand même bien préciser que les rouges ont versé le sang des catholiques.
Voilà, mais bon,
l'archevêque
de Tolède a été toré dans une arène. Voilà. Il a été toré, on lui a mis les banderilles, après on lui a mis un coup d'épée.
Voilà.
L'archevêque, bon, enfin...
C'est la civilisation, ça.
On a sorti des cadavres de bonnes sœurs qui ont été violés. C'est une abomination, c'est absolument abominable. C'est les communistes. Bon, c'est comme ça, c'est l'abomination de la désolation, c'est l'enfer qui vomit derrière. C'est une... J'aurais pas dû le dire, tiens. Alors, voilà, donc, ceci dit, donc, cette exposition est une exposition à la gloire des rouges. À la gloire des rouges.
Alors, c'est
attends,
pas...
Attends, Olivier. Inaugurée par le roi. Bon. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, 15 jours, le Parlement, enfin, les cortès unanimes... vote un grand, je ne sais pas quoi, comment ça peut s'appeler, une monition, je ne sais pas comment ça s'appelle, leur truc à eux, l'agence
AL et tout. Ils ont choisi leur jour, ils ont choisi le 20 novembre, voilà. Date anniversaire de la mort de Franco.
Bon, allez-y.
C'est très important parce que il faut savoir que tous ces gens dont on parlait, qui étaient au Mexique ou en France ou ailleurs, sont revenus. Bon, et certains ont retrouvé leur position. Le président de la Généralité, c'est Jordi Pujol, qui a été un des plus grands agitateurs chrétiens à l'époque de Franco. Antifranquiste, bien sûr. Quand je dis chrétien, je veux dire que démocrate chrétien ou démocrate socialiste chrétien.
Qui est un haut dignitaire maçon aussi. Hein.
Et il a fait quand même 3 jours de prison sous Franco.
C'est pas assez.
C'est pas assez, mais il a touché votre paye de l'année, indemnité l'année dernière. Ouais. Alors, bon... donc c'est bien, vous économisez les finances de l'État. L'ancien boucher de Paracuellos, où 13 000 catholiques ont été massacrés près de Madrid, est aujourd'hui président des commissions ouvrières. Bon. La droite est au pouvoir, et cette droite, pour pouvoir gouverner, a besoin, comme chez nous d'ailleurs, comme en France, de donner des symboles à la gauche. Or, effectivement, donc, c'est pour ça que je crois que vous m'avez invité, depuis quelques mois, il y a une accélération, une débauche, tout ce qu'ils demandent, ils l'obtiennent. Donc le Parti Populaire, bon, qui rassemble de moins en moins de franquistes parce que les gens meurent aussi, l'Espagne évolue, a effectivement le 20 novembre accepté de reconnaître officiellement devant le Parlement qu'elle condamnait le soulèvement national du 18 juillet.
Alors, c'est un vrai, ces gens sont vraiment des... Mais des fesses Mathieu, mais c'est des fesses Mathieu.
Non, mais ce sont les mêmes que les nôtres.
Ah,
et ce qui montre bien que c'est pas une affaire de nationalité, c'est une affaire d'idéologie mortifère.
C'est clair.
Et dialectique. La gauche, lorsqu'elle demande ça, et c'était très intéressant ce que nous disait sur ce point M. Grimaldi tout à l'heure, du temps où Felipe González était au pouvoir, il y a eu une espèce de relative neutralité, pour deux raisons. La première, c'est très pratique d'avoir un ennemi identifiable. Donc, les socialistes au pouvoir en Espagne, et non pas les socialistes espagnols, les socialistes au pouvoir en Espagne étaient ravis d'avoir ce grand ennemi agitable dès qu'il y avait un moment de crise. Et la deuxième raison,
c'est que, sachant qu'un jour la droite reviendrait, et que la droite, la dite droite, est prise dans le piège dialectique, ils peuvent demander tout et n'importe quoi, ils savent que, contre toute attente, à 99% du temps, ils obtiennent exactement ce que vous dites. N'importe quoi. On peut leur demander de faire une statue du... Justement, ben voilà, le boucher
d'Albacete. Boucher de
Albacete. Ben voilà. Il va y avoir... Alors, bon, tout ça est très médiatisé. Par exemple, le plus grand juge espagnol que tout le monde connaît en Espagne, que beaucoup de gens connaissent en France,
Baltasar Garzón.
Vous voyez, voilà.
Dont la femme a un cabinet très très bien
je
situé.
Je crois qu'il est plus connu que notre juge Bruguière. Le juge Garzón, donc le Zorro de l'antiterrorisme, a demandé à ce que l'apologie du franquisme devienne un délit. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est tout ça. Ça s'est passé effectivement depuis le.
C'est une plaisanterie de Garzón demain.
Ça va devenir un délit, comme d'autres délits qu'on connaît. Bon, les mêmes genres. Donc là, ça va devenir un délit. Et ça va le devenir. J'en suis persuadé. Parce que si le juge Garzón dit que c'est un délit, ça ne peut être qu'un délit.
Bien sûr.
C'est une vérité d'autorité.
On a pondu des lois. C'est important. On a pondu des lois au printemps, enfin cet été, contre un mouvement politique basque qui soutenait un mouvement terroriste. Bon. Très bien, tout le monde a applaudi, les gens sont descendus dans la rue, enfin un gouvernement qui lutte contre le terrorisme, bon, ça c'est déjà, on pourra en parler longuement, mais c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette loi, on ne s'attaque pas au terrorisme, on ne s'attaque pas à l'idéologie du terrorisme, on n'énonce pas un mouvement qui est terroriste parce qu'il défend des idées marxistes, autonomistes, etc. Des idées qui sont défendues par ces gens-là depuis le début du siècle et qui ont été développées de façon terrible dans les années 60 par l'ensemble de la gauche européenne. Bon. Alors aujourd'hui, on les condamne, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'au jour, bon, c'est parce que Franco est mort, sans doute. Bon. Mais dans cette loi, quand on lit cette loi, je ne l'ai pas apportée, c'est une condamnation de tous les mouvements qui ne reconnaissent pas la Constitution. Ça va très loin. Alors, bien sûr, vous avez dit, oui, vous parlez de vos mouvements d'extrême droite.
Je ne vous le dirai pas.
Les mouvements nationaux, qu'ils soient carlistes ou phalangistes, ont bien entendu relevé l'affaire. Mais il n'y a pas qu'eux qui ont relevé l'affaire. Il y a quand même des intellectuels. Ils sont toujours de gauche, les intellectuels, c'est bien connu. Donc il y en a quand même.
Il y a que qui pensent, hein, vous savez.
Il y a que qui pensent. Mais des fois, ils pensent pour nous, parce qu'il y a même dans une frange de gens de gauche qui ont dénoncé cette loi pour ces choses-là. Ce qui prouve bien que cette loi est très, très, très perverse. Et des élus, des hommes politiques, de droite comme de gauche, donc du Parti Socialiste ou du Parti Populaire, ont dit, bah oui, bien sûr que cette loi s'attaque à toute expression qui n'est pas une expression de constitutionnelle. Donc c'est une loi, donc c'est ce qu'on appelle nous une loi liberticide, voilà.
Olivier, je suis obligé de malheureusement de vous interrompre. Vous reviendrez, hein, parce que je pense que l'affaire n'est pas close. Enfin, je voulais simplement dire avec Olivier Grimaldi, enfin, donner un coup de cœur parce que c'est une chose qui est crucifiante. C'est une honte, c'est un scandale, c'est un crachat sur la mémoire d'un homme qui ne peut plus se défendre aujourd'hui d'ailleurs et qui a quand même relevé l'Espagne du bazar où elle était ou de l'enfer où elle serait descendue. Si les rouges avaient pris le pouvoir là-bas. Alors, je rappelle qu'Olivier Grimaldi est le président du cercle franco-hispanique, dont je redonne l'adresse, la boîte postale 337 16 75 767 Paris CEDEX 16. Vous éditez un petit bulletin tous les deux.
Nous éditons un bulletin trimestriel.
Les gens
peuvent en demander en envoyant une poignée de timbres.
Voilà, une poignée de timbres non affranchie, s'il vous plaît. Donc, voilà. Boîte postale 337 16 75 767 Paris, CEDEX 16. Juste une seconde, vous voulez dire quelque chose?
Oui, non, je voulais demander à Olivier Grimaldi s'il publiait justement un bulletin de liaison qui permette de...
On publie un bulletin de liaison, on va éditer également dans ces jours-ci, enfin avant Pâques, un gros numéro sur le fondateur de la Phalange, puisque c'est le 100e anniversaire cette année de sa naissance. Et puis, il faut dire qu'il y a des publications qui vont apparaître, notamment un livre écrit par Jean-Claude Vallat sur la Phalange, qui doit apparaître dans 15 jours. Non, beaucoup de choses sont faites, mais tous ceux qui sont intéressés par par l'Espagne nationale peuvent nous écrire.
Est-ce qu'on peut adhérer à ce cercle?
Ah ben oui, qu'on peut adhérer.
Comment? On a besoin d'argent, oui, on peut adhérer.
Moyennant combien justement?
En euros?
Oui. Pesetas, hein, combien en pesetas?
Pour 3-4 000 pesetas, c'est-à-dire 23 euros.
23 euros.
Pour 23 euros, vous en avez droit à un journal, on a droit à la reconnaissance de nos amis espagnols, et on a droit à une carte d'adhérent qui permet des tas de choses en Espagne, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de locaux et beaucoup de choses où on peut être accueilli.
Merci Olivier Grimaldi. Bah, toutes ces publications qui vont venir, ça va nous donner l'occasion de nous revoir.
Bien
ce
sûr.
Sera très bien.
Merci.
Puis alors, je ne sais pas si il va y avoir en Espagne un délit de franquisme. C'est possible que ça devienne même constitutionnel. Mais enfin, nous, en tout cas, sur Radio Courtoisie, si Franck le veut bien, on peut encore écouter ça. Après, il y a tous les cris espagnols. La grande Espagne libre.
Arrive Espagne.
Merci beaucoup pour cet enregistrement. C'est un enregistrement de notre camarade Olivier Grimaldi qui nous a fait l'amitié de nous apporter le
chant
célébrissime, Cara al Sol. Voilà. Oui.
Ce petit message, un auditeur, enfant. Le franquisme est actuellement condamné en Espagne car identitaire. Tout ce qui est identitaire est condamné en Europe.
Oui, mais ça, c'est pas parce que c'est bien condamné sûr. Que ça disparaîtra. Je vous préviens tout de suite, mesdames et messieurs les censeurs. Oui, alors, voilà. Donc, alors, nous allons, merci beaucoup, Olivier. Nous allons passer maintenant à une autre partie, parce qu'il faut quand même le temps passe. C'est effrayant.
Mais qui, je pense, peut prendre la continuité de certaines choses.
Oui, d'un certain point de vue, oui.
En donnant une explication.
Voilà,
des atrocités de la politique contemporaine ou de la destruction de tout ce qui faisait la noblesse de l'homme dans la civilisation telle qu'elle s'est vécue pendant de nombreux siècles. Parce que alors, quand on parlait tout à l'heure des atrocités commises par les Rouges pendant la guerre d'Espagne, inévitablement, on peut penser qu'il y a par derrière, lié à la conviction maintenant ancrée dans beaucoup de cerveaux que l'homme descend du singe, donc il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, eh bien on a là une cause générale explicative d'un certain nombre d'anomalies flagrantes de la société contemporaine qui n'est plus une civilisation.
Alors je lève le doigt parce que maintenant j'ose plus interrompre, parce qu'en cas je me fais taper sur les doigts. Alors qui parle? C'est Dominique Tasso, donc c'est le président
président du Centre d'études et de prospectives sur la science, qui nous fait ce petit préambule. Et quand vous disiez tout à l'heure, cher Dominique, que sur la nature de l'homme et de l'animal, je vous renvoie à une autre bonne lecture que j'ai déjà signalée la semaine dernière, qui est le dernier ouvrage de Xavier Martin, qui s'appelle « L'homme des droits de l'homme et sa compagne », publié chez Dominique Martin-Morin, où l'on verra que les grands ancêtres des Lumières et des philosophes, qui étaient tous des philosophes et qui étaient vraiment pas du tout lumineux, considéraient quant à eux que les sociétés animales étaient bien meilleures aux sociétés humaines, qu'une fourmilière, qu'une ruche, qu'un groupe de castors, c'était la mode des castors au 18e à cause du chapeau, du feutre, le feutre se fait avec le castor, était infiniment supérieur aux sociétés humaines.
Parce que tout est rationnel
voilà,
tout dans est, ces sociétés.
Voilà,
alors c'est l'irrationnel qui était considéré par eux comme une anomalie.
Etienne Grantaire, je vous donne une petite
je
minute.
Sais, je sais, mais à propos...
Là, je vous sens partir pour un grand tunnel.
À propos de l'identité, quand vous finalement contestons dans l'Allégresse qu'évidemment l'homme ne descend pas du singe, mais Richard Wagner avec quelquefois des
ou à considérer des de bon sens. Certains de mes contemporains, je me demande s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans.
Richard Wagner disait, de toute façon, il importe peu que l'homme descende ou pas du singe. L'important pour l'homme, c'est de ne pas remonter dans l'arbre.
C'est joli. Oui. Alors, on va en parler parce que justement, il y a une grande l'actualité. Le numéro 21 de votre revue vient de paraître. Avec un article passionnant sur la face cachée du darwinisme.
Donc c'est ça dont je voulais vous parler.
Ah voilà, et surtout moi ce qui m'a beaucoup passionné, c'est la deuxième partie de Mes chers dinosaures. Mais aujourd'hui nous ne voyons plus que ça à la télévision et dans nos kiosques à journaux. On ne voit plus que des dinosaures, des brontosaures. Nous avons encore un journal prétendument scientifique où nos ancêtres, alors on voit des espèces de singes absolument... c'est tout à fait invraisemblable, ces choses-là. Eh bien, alors, il faut peut-être, Dominique Tassot, nous en parler.
Oui, mais volontiers. Effectivement, parce que vous savez, cette fascination pour les dinosaures n'est pas d'aujourd'hui, puisque toutes les civilisations ont eu, pour les dragons, justement, ont une connaissance de ce qu'étaient les dragons, et une connaissance objective, puisque que le dragon soit chinois ou babylonien ou médiéval, c'est toujours un animal de type dinosaure, c'est-à-dire un corps massif, un long cou, une petite tête, des écailles. Donc on comprend par là que l'homme a été témoin des dinosaures, parce qu'il les a décrits comme il les voyait. Et bon, pour nous, c'est le lion, le roi des animaux, enfin d'après La Fontaine. Mais pour le livre de Job, bon, qui est un livre ancien, enfin qui a été écrit, mais le roi des animaux, c'est le dinosaure. Enfin, le dinosaure animal terrestre, le plésiosaure animal marin. Alors évidemment, ils sont pas appelés dinosaures, ils sont appelés Behemoth et Léviathan. Mais lisez le chapitre 40 du livre de Job et vous verrez que l'animal le plus terrible, justement, c'est le Behemoth, parce que de sa queue, il balaye les cèdres du Liban. Ses écailles sont imperméables aux flèches. Donc on a une description qui rejoint tout à fait celle qui est faite par en particulier la légende de Beowulf.
Ah, ça c'est tout à fait.
Qui est appelée légende par évidemment aujourd'hui, de la même façon que Renan appelait les évangiles légende. Pour une raison très simple, il disait, ça n'est pas parce que le témoignage historique des évangélistes n'est pas sûr que je dis que les évangiles sont une légende. C'est parce que les évangiles racontent des miracles. Que j'en déduis forcément que c'est une légende. Alors de la même façon, à partir du moment où Beowulf racontait comment on a pu justement venir à bout du monstre Grendel...
Le Beowulf, parce que c'est une chose tout à fait intéressante. C'est un grand
poème scandinave qui raconte en particulier donc les exploits d'un roi danois, Beowulf, et parmi ses exploits, il y a en particulier le fait qu'il ait tué le monstre Grendel, donc qui était un dinosaure, et il a réussi, justement, il avait alors par exemple une force de poignet considérable, et il s'est rendu compte que le point faible de Grendel, c'était l'avant-bras. parce qu'on ne pouvait, enfin, de face, enfin, on ne pouvait rien, à l'épée, à la lance, on ne pouvait absolument rien. Par contre, il a sauté en attrapant l'avant-bras, il l'a tordu, il l'a déchiré, et à ce moment-là, Grendel s'est blessé, s'est enfui, et
donc il avait de petits avant-bras
débarrassés. De la même façon.
De petits antérieurs, oui. De gros postérieurs, vraisemblablement, et une gueule, paraît-il, d'après les descriptions, une gueule extrêmement dentée, ça fait quand même penser.
Vous pensez à quelqu'un, Daniel?
Non, je pense à un tyrannosaure ou à une bête de cette nature. Quoi.
Oui, absolument. Donc, il était bipède. Donc, c'est pour ça qu'on le décrit, justement, dans le poème, comme ressemblant à un homme, mais évidemment beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, alors, tout s'explique très bien si on admet la survivance de dinosaures, je dirais. Mais il y a en Angleterre 200 noms de lieux qui évoquent
la présence de dinosaures.
Donc il y a un très grand nombre de tympans d'église où on voit des brontosaures. Enfin des... Alors ça n'est pas. Alors aujourd'hui, évidemment, on dit c'est un dinosaure, c'est un brontosaure. On donne même l'espèce ou la variété. Mais les gens à l'époque, évidemment, ne se posaient pas ce genre de questions naturelles.
Cette nomenclature des animaux préhistoriques, elle date de quand?
Elle date de des découvertes paléontologiques qui ont été faites à partir du siècle dernier, où on a trouvé des ossements de dinosaures. Alors vous en êtes très beau d'ailleurs à Bruxelles, hein, au musée.
Donc avant, on utilise, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, on n'utilise pas le terme de brontosaure ou de
ah non, bien sûr.
Dragon, de cuisse ou de dragon.
On dit. Non, on avait le terme de dragon, monstre, mais évidemment, comme ces animaux, on ne les a pas sous la main, si vous voulez. On n'a pas conservé. Le Grendel s'est enfui dans la forêt, bon, il a disparu. Enfin, il faut bien voir que aujourd'hui, on a tout ce travail de scientifiques qui creusent, qui gardent le produit de leurs fouilles de façon très méthodique dans des musées, etc. Bon, l'humanité n'a pas fonctionné de cette façon depuis toujours. Donc, quand Sainte-Marthe, si vous voulez, a assagi la Tarasque, bon, c'est tout. On en a fait un récit qui s'est transmis, mais on n'a pas garder le squelette de la Tarasque. Les gens avaient une certaine confiance dans la parole. Si vous voulez, la grande différence entre aujourd'hui, un bout de papier, c'est sérieux, et quand quelqu'un parle, ça ne vaut rien. Ce qui prouve bien à quel point...
Ce qui n'est pas vrai sur Radio Courtoisie. Oui.
Là, vous avez raison de prendre vol, mais il y a une anomalie flagrante, si vous voulez, dans cette dévalorisation de la parole donnée dans la société contemporaine. Et ce qui est quelque chose d'abominable, parce que la parole, c'est l'homme, c'est le propre de l'homme. Alors, dans cette dévalorisation, inévitablement, moi, je vois une résurgence des idées darwiniennes.
Mais c'est l'obsession du contrat écrit à l'anglo-saxonne.
Attendez, mais c'est non seulement la parole, c'est l'homme, mais la parole, c'est Dieu aussi. C'est la parole de Dieu qui crée. C'est pas un exploit d'huissier qui crée quoi que ce soit. C'est très intéressant. Non, mais quoi, c'est vrai. Ne riez pas, Étienne Grand.
Non, mais moi, je veux me réjouir du fait qu'on n'ait pas ces monstres sous la main, parce qu'il y a des chances qu'on serait plutôt sous leurs pieds. Si.
Alors vous verrez dans justement, ça c'est le numéro 21, mais dans le numéro 22, la saga des dinosaures se poursuit avec des récits de ce qui se passe aujourd'hui au centre d'Afrique. Je laisse planer un peu de mystère, mais
il n'y a pas marqué à suivre.
Non, parce que c'est un autre auteur,
c'est un autre article,
si vous voulez.
C'est pas Bill Cooper.
C'est un autre article.
Mais venu très sympathique et très proche,
D'un Américain contemporain qui a fait 5 expéditions au cœur de l'Afrique, dans des zones qui sont en blanc sur les cartes, et où, justement, il y a manifestement, aujourd'hui, encore des dinosaures présents et qu'on peut faire en utilisant les manuels, si vous voulez, ou les images de dinosaures, on peut faire reconnaître par les indigènes qui en ont aperçu le type de dinosaure dont il s'agit. Donc c'est très intéressant. On leur montre des animaux mythiques ou extraordinaires, ils disent non, c'est pas ça, et puis on leur montre le diplodocus machin, c'est ça.
Parce qu'il y a une série qui continue à passer, je pense sur la 3 ou la 6, une série de la télévision britannique, enfin produite par la BBC, où on voit l'histoire des dinosaures. Enfin, c'est très bien fait, je veux dire, au plan technique, c'est magnifique, c'est des images de synthèse, c'est tout à fait extraordinaire, mais ce n'est absolument pas croyable. Enfin, moi, je suis absolument convaincu qu'il y a de la fausseté. Alors, il ne se passe pas une semaine sans qu'on vous dise que c'est une météorite qui a exterminé tous les dinosaures d'un coup. Pourquoi ça leur a exterminé que les dinosaures et pas les autres êtres vivants?
Non, et puis surtout, comment se fait-il que si ces animaux ont été exterminés, ils soient restés dans la mémoire de l'humanité, qui est censée être beaucoup plus récente? C'est-à-dire que normalement, d'après la préhistoire, il n'y a absolument aucun recouvrement entre l'homme et le dinosaure. Or, les témoignages les plus abondants dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, etc., montrent que l'homme a connu des dinosaures. Et quand même, le témoignage de Job n'est pas, pour un chrétien, dénué d'intérêt.
Non, mais ça, c'est des choses très, très intéressantes. Alors, donc, et ces dinosaures, donc, j'invite les auditeurs à se procurer c'est toujours, vos numéros sont toujours fameux, sont vraiment remarquables. Donc, le numéro 21, le CEP, ça s'appelle le CEP, donc, c'est l'organe ou la revue du Centre d'études et de prospectives sur la science. Donc, je redonne l'adresse ici, 4 rue de Beauvais, 91 410, Saint-Cyr-sous-Dourdan. 91 410, Saint-Cyr-sous-Dourdan. Alors, ça vaut, ben, je ne sais pas combien ça vaut la revue d'ailleurs, tiens.
Ça vaut 6 euros. Franco,
6 euros franco, vous envoyez à CEP 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr-sous-Dourdan. Pour 6 euros, vous allez avoir de quoi vous régaler.
Pour les auditeurs parisiens, ils peuvent aussi se les procurer à la librairie France Libre, 6 rue du Petit Pont, et à la librairie Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne.
Librairie France Libre et librairie Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne. Alors également dans ce numéro là, un article sur la face cachée du darwinisme. Alors quelle est cette face cachée du darwinisme?
Eh bien, c'est justement l'influence contemporaine du darwinisme sur bien des aspects de la dégradation sociale et de la dégradation dans les esprits. Et là, je vais justement vous donner une citation quand même intéressante sur le cannibalisme. Parce que le cannibalisme, au fond, c'est du point de vue de la survie de l'espèce, c'est un avantage. C'est-à-dire celui qui pratique le cannibalisme a évidemment un avantage sur celui qui ne le pratique pas. Donc la logique darwinienne fait qu'aujourd'hui, plusieurs universitaires américains, enseignant donc à nos braves étudiants américains, défendent le cannibalisme avec des arguments d'une parfaite logique. Qui sont les mêmes que les arguments qu'avait Hitler ou les arguments qu'avait Marx un peu plus apaisé, mais ça nous en avions déjà parlé. Et comme disait Rudolf Hess, le national-socialisme n'est que l'application dans la politique de principes de biologie. Et voilà ce que dit le professeur Marvin Harris, qui était professeur à Columbia. Il dit justement, la meilleure source de protéines pour les êtres humains est la chair humaine, car l'équilibre des aminoacides est précisément celui que le corps requiert pour son propre fonctionnement. Donc, il y a une anomalie flagrante, si vous voulez, à laisser, par exemple, des combattants pourrir sur le champ de bataille.
C'est perdu,
c'est du gaspillage. Et donc, on devrait, justement, reconnaître la supériorité du cannibalisme. Alors, voilà où conduit un universitaire cohérent. Parce que le drame des idéologies, c'est la cohérence. C'est que les gens partent sur une idée fausse et puis ils vont jusqu'au bout de cette idée alors que l'homme de la rue à un moment donné il s'arrête.
La folie, c'est lorsqu'on a tout perdu sauf la raison.
Oui, bon, Freud en 1915 disait les désordres mentaux sont les vestiges de comportements appropriés lors de stades antérieurs de l'évolution.
Intéressant.
Freud 1915. Donc on voit bien, alors là, quand on en est là, plus tous les repères sautent. Alors et votre jeu de mots tout à l'heure sur Movimento et Movida, on est tout à fait là, rien ne résiste au changement, parce qu'il n'y a plus aucun repère fixe, il n'y a plus aucun principe, il n'y a plus aucune parole à respecter, puisque c'est ce qui compte, c'est ce qui donne un avantage pour la survie, et la survie de l'espèce. Pas la survie de l'individu. Et c'est ça qui explique, par exemple, le souci d'Hitler de régner pendant plusieurs centaines d'années. Parce que Hitler, évidemment, savait bien que lui mourrait avant la fin de ce siècle. Mais il voyait aussi que la nécessité de ce qu'il avait entreprise, entreprise, c'est-à-dire l'État raciste allemand, nécessitait justement de la durée. Parce que dans la perspective darwinienne de l'évolution par petits sauts graduels, etc., il faut du temps pour arriver justement à ce que la pureté du sang produise les fruits qu'on en attend. Hein. Et il est la notion de lutte darwinienne est omniprésente dans Mein Kampf. D'ailleurs, le mot Kampf lui-même, mon combat, c'est ma lutte, c'est la lutte pour l'existence du peuple allemand qui doit assurer évidemment sa domination sur les autres. Mais alors, pour assurer cette domination, il faut qu'il améliore son pool génétique, je dirais. Et donc c'est, si vous voulez, c'est une idéologie d'une parfaite cohérence avec ce qu'il croyait être la science, mais qui n'est que la théorie darwinienne. Donc je cite, si vous voulez, l'État doit intervenir comme ayant le dépôt d'un avenir de milliers d'années. Parce que ce que l'individu ne peut pas faire, l'espèce le peut. Cette évolution graduelle ne se réalise pas à l'échelle individuelle, donc l'homme peut devenir meilleur, mais il ne deviendra pas un surhomme. Tandis que si l'État prend en charge l'évolution dirigée d'une branche de l'espèce humaine, eh bien, l'État peut obtenir cet objectif darwinien.
Ça donne des frissons.
Donc, l'État doit intervenir comme ayant le dépôt. C'est sa responsabilité propre. Hein. Donc là, nous sommes dans nous sommes vraiment dans la politique, ayant le dépôt d'un avenir de milliers d'années, au prix duquel les désirs et l'égoïsme de l'individu sont tenus pour rien et devant lequel ils doivent s'incliner. Donc, l'individu n'est rien, l'individu doit disparaître. Hein. Mais par contre, l'espèce subsiste et peut se perfectionner.
C'est la philosophie des Lumières.
Page 403 de l'édition de Mein Kampf que je pense plusieurs d'entre vous ont, puisque c'est celle des éditions latines.
Hein. Non.
Si pendant 600 ans, les individus dégénérés, physiquement ou souffrants de maladies mentales, étaient mis hors d'état d'engendrer, l'humanité serait délivrée de maux d'une gravité incommensurable, elle jouirait d'une santé dont on peut aujourd'hui se faire difficilement une idée. Donc l'État raciste, page 424 du même Mein Kampf, l'État raciste devra lutter pour son existence. Donc on est exactement dans la lutte darwinienne pour la vie, et il est donc on est devant des idéologues d'une parfaite cohérence, mais d'une parfaite cohérence avec la théorie darwinienne.
On passe un petit mot, enfin c'est Olivier Grimaldi qui a vraiment l'esprit facétieux ce soir, qui me passe un petit mot. Effectivement, j'ai vu cette annonce à propos du cannibalisme, j'ai vu cette annonce dans le journal ce matin, on va passer sur, chaîne anglaise je crois, de télévision anglaise, des séquences extrêmement dures, fatrash, où on voit un monsieur un artiste chinois qui mange un bébé, qui mange un enfant mort-né, il le mange. Et il y a le commentaire qui est fait par cet artiste en disant « Mais il n'est nulle part interdit de manger de l'homme. » Où la loi interdit-elle ? Il n'y a pas de loi qui interdit de manger de l'homme.
Non, ça doit être un héritage de la loi non écrite, de l'ordre naturel, et même les plus fous de ces fameuses lumières, qui, je le signale au passage, contrairement aux lumières divines, les lumières rationnelles de messieurs Rousseau et consorts, elles, on peut les éteindre. Bon, mais je pense que c'est un héritage de ça. Même les plus fous des progressistes n'avaient pas pensé qu'il fallait interdire la consommation, mon Dieu, de chair humaine.
Oui, oui, mais ça s'est fait sous la Révolution aussi, d'ailleurs. Enfin bon, passons. Alors, je vous interromps un instant, Dominique Tasso, parce qu'il y a des messages notre camarade Jacquelinette brûle de lire.
Sur la théorie de Coppens. Alors, un auditeur, oui, pouvez-vous préciser comment on peut maintenir la théorie de Coppens, origine de l'homme est de l'Afrique, alors que ses collègues découvrent Abel, puis Toumaï au Tchad, plus ancien que Lucie. Et l'autre, c'est quel crédit apporter à Coppens donnant les origines de l'homme en Afrique.
Alors justement, dans le numéro 20 du CEP, on a publié une très, très intéressante lettre ouverte à Yves Coppens.
21,
numéro 21, merci.
22.
Non, Skripko et Kolesnikov, c'est dans le numéro 20.
Ah oui,
donc dans le premier numéro qui parle des dinosaures. Alors si vous voulez, pourquoi Lucie est-elle notre ancêtre? C'est parce qu'elle a 2 millions d'années, ou 2 millions et demi d'années. Comment fait-on pour savoir qu'elle a 2 millions et demi d'années? Parce que on la date par le potassium-argon. Or, dans un squelette humain, il n'y a ni potassium ni argon. Première difficulté. Donc on va chercher l'argon dans la lave voisine, la plus proche, qui peut être à 3, 4, 5, 6 km. Bon. Et là, il faut encore décider si on va considérer que le fossile est au-dessus ou en dessous de la lave. Puisque quand on est dans une lave, il n'y a pas de fossile. Hein. Quand la lave coule, tout brûle. Donc le fossile, il se trouve nécessairement dans un terrain sédimentaire qui est quelque part en dessous, au-dessus ou à côté de la lave. Bon. Alors déjà, ce simple principe d'aller dater par le potassium argon un fossile dans une roche sédimentaire est assez audacieux. Mais là, ce qui est le plus intéressant, c'est que on vous dit, on date parce que le potassium radioactif se transforme en argon, donc on mesure la quantité d'argon et puis on en déduit depuis combien de temps le potassium est en train de se transformer en argon. Alors, ce principe-là a été donc remis en cause et par en particulier Guy Berthaud, le signataire de la lettre, qui écrit à Coppens en lui disant, mais enfin, vous n'ignorez pas que l'argon est un gaz omniprésent dans l'air, c'est à peine un gaz rare, c'est-à-dire il y en a dans l'ordre de 1%. Enfin, c'est, disons aussi, si l'azote liquide, c'est le prix de l'eau minérale, l'argon, c'est le prix du vin rouge. Enfin, c'est pas du tout un gaz rare. Donc, quand la lave se solidifie, elle emprisonne de l'argon. Donc, comment pouvez-vous, Monsieur Coppens, considérer qu'il n'y avait pas d'argon venant de l'air ambiant au moment de la solidification de la lave, et que l'argon que vous mesurez pour votre méthode, c'est l'argon qui vient du potassium qui s'est décomposé? Alors, évidemment, pas de réponse de Coppens, mais la lettre est envoyée en Russie à un certain Skripko, qui est le responsable de la volcanologie au Musée des sciences de la Terre de Moscou, et puis au spécialiste de radioéléments de Leningrad, qui tous les deux font une réponse à Guy Berthaud en lui disant, écoutez, votre remarque est tout à fait judicieuse, parce qu'effectivement, d'abord, il est impossible de dater par le potassium argon quelque chose qui aurait moins de 300 000 ans, puisque de toute façon, l'appareil lui-même, la précision de l'appareil ne permet pas d'aller en deçà de 300 000 ans. Et d'autre part, ce que vous dites est parfaitement vrai, et ça va même beaucoup plus loin, parce que quand il y a de l'argon dans le volcan, enfin dans le magma, il y a déjà de l'argon, et quand le magma sort du volcan, la pression est tellement forte que l'argon ne peut pas s'échapper du magma, et comme la cristallisation commence avant que la lave sorte du volcan, eh bien, il y a nécessairement de l'argon emprisonné dans le volcan. Alors, évidemment, c'est dit avec des arguments beaucoup plus détaillés que ce que je peux dire, et ça explique une anomalie que Guy Berthaud avait envoyée à Coppens en lui disant, j'ai fait prendre moi-même, il y a eu au Mont Saint-Hélène, donc dans l'État de Washington, en 1980, donc c'est pas vieux, une explosion volcanique colossale on a eu l'obscurité sur 3 États américains en plein jour, les lampadaires se sont allumés, c'est comme on le voyait venir depuis longtemps, il y avait des avions en permanence, ça a été filmé sous toutes les coutures, donc cette explosion a bien eu lieu au mois de mai 1980. Et on a fait une datation au potassium-argon sur la lave produite par cette explosion. Et ça a donné des résultats entre 1 800 000 ans et 900 000 ans, selon l'échantillon qu'on prend et selon, à l'intérieur de l'échantillon, la composition de l'élément qu'on prend. Donc ça veut bien dire que ces datations potassium-argon ne valent rien du tout. Et alors évidemment, les Skripko et Kolesnikov le disent ça beaucoup mieux, avec beaucoup plus de détails, les raisons pour lesquelles ça ne vaut rien. Or, toute la théorie de Lucie, l'ancêtre africaine, etc., est basée sur la chronologie. On ne peut pas séparer aujourd'hui la présentation de la préhistoire qui est faite malheureusement, y compris dans les manuels, d'hypothèses de chronologie qui sont complètement farfelues, puisque basées sur une méthode qui est fausse dans ses principes comme dans ses applications.
Mais ce qui est bad chez les évolutionnistes, en fin de compte, c'est quand ça marche pas avec le potassium argon, quand on leur montre, alors ils inventent des trucs. Là, on a publié un article dans le Légitimiste de la semaine dernière, c'était un petit papier que nous avait fait le professeur Loumillet, qui est philosophe, hein, que pour paléontologue, mais c'était sur l'imposture de l'homme de Piltdown. Mm-hmm. Vous savez, la calcaire de Chardin a été atténuée. On avait
trouver le plus vieux crâne de l'homme anglais. Après, on a su la supercherie. La supercherie, c'était d'avoir mélangé un crâne d'un homme du XIVe siècle, on avait déterré ou dont le crâne avait affleuré, avec une mâchoire d'orang-outan et la canine d'un jeune singe. On avait bien vissé tout ça et c'était devenu l'homme de pile d'orme. Alors la dent, en plus la dent, c'était Yard Chardin qui a trouvé ça dans un fleuve, dans un ruisseau, je ne sais pas où, et qui a trouvé ça comme une espèce de chose. C'est quand même absolument hallucinant.
Oui, mais ce terre de Chardin, ce terre de Chardin, oui. Pile d'orme, que dans la perspective de la concurrence entre l'Angleterre et l'Allemagne avant la guerre de 14, oui, parce qu'on venait de trouver l'homme de Heidelberg, donc le plus vieil européen était allemand. Donc ça, c'était insupportable, si vous voulez, pour l'honneur de la science anglaise, il fallait trouver mieux. Et ça a été l'homme de Pile d'Orme qui est devenu un monument national, si vous voulez, la chaire des, enfin, les députés ont voté des crédits pour en faire un site officiel. Hein.
Enfin, je donne quand même deux citations, alors c'est tout à fait hors de ce que nous discutons, mais enfin, c'est très intéressant, c'est dans votre petit préface, faut-il accepter la dictature de la science, Dominique Tasson, publié donc dans le numéro 21 du CEP, et vous citez quand même deux citations de Thiers de Chardin. Alors, elles sont importantes. Je veux rien contre Thiers de Chardin spécialement.
Chez les Chardins, il faut toujours préférer le grand peintre du 18e.
Voilà, bon. Alors, il y a une citation de 1936, où il écrit, 1936, « Instinctivement, je ne crois pas beaucoup à la guerre. Mais je suis inquiet de la part considérable de réactions qui se mêlent au fascisme et des bénédictions que pour ces raisons ceux-ci reçoivent au fond. On ne m'enlèvera pas de la tête que le communisme est le plus chrétien des deux et le plus riche d'avenir. » 1936. 1938, il a un petit peu changé d'opinion. Enfin, il hésite. Il écrit à un autre jésuite, « Je ne sais pas où fixer mes sympathies. » 1938. « Je ne sais pas où fixer mes sympathies, à l'heure présente. » Où y a-t-il le plus d'espoir et d'idéal présentement? En Russie ou à Berlin?
Ça dépend des bottes.
Voilà. C'est quand même incroyable.
Et ça prouve qu'il était fasciné par le développement de l'humanité se construisant avec l'organisation sociale tout à fait impressionnante, aussi bien du fascisme que du communisme.
Je tiens à dire qu'on trouve d'ailleurs, on retrouve hélas des discours chez certains ecclésiastiques français, navarrais, serbes, que sais-je encore, qui sont assez proches de ça. J'ai entendu dernièrement, je ne le nommerai pas, un archevêque connu dire que on était dans l'enfance de l'humanité. Voilà.
Oui, de toute façon, le théiardisme est complètement assimilé par la...
Totalement assimilé. Aujourd'hui, il n'y a plus de
critique sur la théière de Chardin. Catholique, hein.
Et c'est pour ça que cette petite citation était utile de montrer qu'il a participé à une forgerie absolument monstrueuse pour ce grand scientifique et qu'au plan politique, il avait autant d'intelligence qu'une musaraigne, quoi. Enfin, faut dire les choses comme elles sont, quoi. Bon.
N'insultez pas les musaraignes,
oui,
Daniel.
Que les auditrices musaraignes m'excusent. Je le ferai plus. Alors, vous avez des petits messages.
Oui, j'ai un auditeur qui la presse a précisé que Toumaï, découvert au Tchad, aurait 7 millions d'années.
Ben voilà.
Et puis une auditrice.
Pourquoi 7 millions? C'est comme s'il faut boire 2 litres d'eau par jour, manger 10 fruits ou légumes. Pourquoi pas 15 litres d'eau et 50 000 fruits.
Vous connaissez l'histoire de ce conférencier qui, juste avant-guerre, disait, mais c'est une conférence sur la fin de la Terre. Alors, il était question de 98 millions d'années. Alors, il y a un monsieur qui se lève et qui dit dans la salle, affolé. Vous avez dit 100 millions d'années? Et le conférencier dit, non, 98 millions. Et l'auditeur se rassurait.
Alors, mais ça...
auditrice, on dit que l'on ne sait pas où passent les morts chinois, n'atterrissent-ils pas dans l'estomac de leur
conjoint? Non,
au contraire, les Chinois ont un respect considérable des morts, de l'endroit où on doit les enterrer. Vous savez qu'il y a même des entreprises spécialisées pour rapatrier les Chinois dans leur village d'origine.
Il ne faut pas dire des choses comme ça, en plus, parce que c'est répréhensible, et c'est même punissable. Donc je ne veux pas qu'on dise des choses comme ça dans cette émission.
Non, puis c'est injuste, en plus.
Non, l'autre, c'est un cinglé, c'est un artiste. Un cinglé, quoi.
Mais remarquez que Coppens, justement, quand il a... Enfin, Johnson, le découvreur de Lucie, quand il a voulu reconstituer le squelette, s'est dit, il faut que ça ressemble à... C'est un peu différent d'un tibia humain, mais ça ressemble quand même... Mais alors, il n'avait pas sous la main l'élément de comparaison. Ils sont allés profaner...
Ce sont des fossiles, il faut bien comprendre.
Johnson est allé de nuit profaner un cimetière musulman, voisin, pour récupérer un ossement humain de façon à pouvoir faire sa comparaison. Donc ça, ça montre bien dans, enfin, où on en est, parce que c'est aussi des universitaires, ça, c'est Johnson et Coppens. Mais alors, rien ne les arrête.
Encore un message.
C'est un message sur l'Espagne.
L'Espagne. Alors, un petit message sur l'Espagne.
Oui, bonjour, j'ai quelqu'un de ma famille qui est en Espagne, et pas plus tard que ce matin, il m'a affirmé que les Espagnols haïssaient Franco, car celui-ci était un dictateur et un assassin. Ne connaissant pas grand-chose à ce sujet, je souhaite savoir pourquoi et comment il était ou n'était pas cela.
Bah, là, il nous reste deux minutes, donc on ne va pas refaire l'affaire de Ronan. On invitera Olivier à revenir, évidemment. Mais Franco était un assassin, c'était un abominable.
Non, mais moi, j'ai rencontré des chiens qui marchaient sur les pattes avant, mais tous les chiens ne sont pas comme ça.
Voilà, il mangeait des petits enfants dans le berceau. Enfin, c'était abomination de la désolation. Il est heureux que pour l'humanité, que pour l'avenir de la conscience humaine, cet homme ait débarrassé le plancher des vaches. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu l'histoire.
Bon, on fera un jour, évidemment qu'on fera un jour. Quand il y aura un bon livre sur Franco, pour l'instant, il n'y en a pas très, très bon, donc quand il y aura un bon livre sur Franco.
Il
faut parler dans le micro, parce qu'on ne vous entendra pas.
De préciser aux auditeurs qui voudraient s'intéresser, non pas spécialement à l'histoire contemporaine de l'Espagne et à la politique espagnole, mais à l'histoire du franquisme, qui a l'excellent bouquin qui s'appelle Franco, écrit par un universitaire qui s'appelle Benassar, et que ce livre a été édité dans une collection de poches, je ne sais pas laquelle, si c'est Folio ou 10-18, mais on la trouve dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les librairies, et c'est le livre qu'au Cercle franco-hispanique nous recommandons, sans doute le meilleur sur Franco depuis bien longtemps, depuis le livre de Claude Martin, mais qui est obsolète et qu'on trouve plus.
Donc, Benassar. Biographie de Franco.
Voilà.
Oui. Très bien, c'est noté. Il vous reste une minute, mon cher camarade, pour conclure.
Je voulais signaler que dans ce numéro 21, il y a un article, Marée Noire, érogation.
Ah, c'est très beau.
Alors,
ça, c'est chouette.
Qui avait été programmé, c'est extraordinaire, avant qu'on sache qu'il allait y avoir
encore une nouvelle
Marée Noire, parce que c'est un article qui date de l'époque de l'Amoco Cadiz, et écrit par Georges Salé, ingénieur génie maritime, mais qui est mort il y a deux ans maintenant. Mais c'est un article très intéressant parce qu'il montre bien comment les éléments naturels, tout en étant évidemment subordonnés aux lois de la physique et de la météorologie, néanmoins peuvent être orientés.
Ah bah évidemment,
de la même façon que nous sommes capables de mouvoir nos bras à droite ou à gauche sans enfreindre les lois de la physique, mais tout en les dirigeant selon notre volonté. Et la conclusion, évidemment, de cet article, c'est que l'Église devrait rétablir l'érogation.
Eh ben voilà, il n'y a pas que ça qu'elle devrait rétablir de sainte mère l'Église. Enfin bon, passons. Alors donc, ça aussi, Marée Noire, érogation, un papier formidable de Salé. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, on compte au hasard, nous autres. Hein, bon, c'est formidable. Alors, chaque revue fait 96 pages, enfin, en règle générale, c'est 96 pages, donc on peut l'avoir pour 6 euros. C'est un numéro passionnant. On n'a pas parlé de la plume merveille de la création, parce que là, on sera allé trop loin, mais c'est une chose extraordinaire. C'est vrai, quand on regarde une plume, ça tombe à la renverse. Alors, 6 euros le numéro 21, le 22 va bientôt paraître. Cette année, quoi, en 2003. C'est édité par le Centre d'études et de prospectives sur la science, donc CEP, on va plus faire plus court, CEP. 4 rue de Beauvais, 91 410, Saint-Cyr sous Dourdan. Nous avons donc également reçu notre camarade Olivier Grimaldi, président du Cercle franco-hispanique, boîte postale 337 16 75 767 Paris Sedex 16. Également notre camarade Jacques Perret. Enfin, notre camarade Jean-Baptiste Sommet qui nous a parlé de sa brochure formidable sur Jacques Perret, donc ça c'est 8 euros qu'on peut commander chez Jean-Baptiste Sommet, 16 rue Brézin, 75 014, Paris. Voilà, nous en avons terminé pour cette émission. Nous redisons encore à nos auditeurs nos voeux de sainte année 2003. Nous retrouvons, je crois, quelque part à la fin du mois. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.